Bienvenue à Montréal. Mon nom est Patrick Tellen, je suis concepteur d'interface de jeu et aussi producteur ainsi qu'animateur de ce nouvel épisode, ma foi, hors série de Poutine à deux. On va d'abord faire un tour de table. Je le cite, on est actuellement à la... vraiment la cité Bellacelle, le château de la...
Faut peut-être pas exagérer là quand même.
Donc oui, vous attendez sa voix, ça fait longtemps. Contrairement aux rumeurs qui traînent sur internet, Greg, tu n'étais pas parti tourner une pub de Perrier au Japon, t'es resté au Québec pendant tout ce temps.
Il faut peut-être des fois croire les rumeurs, il y a pas de fumée sans feu, Pat.
J'ai l'impression déjà d'être dans un podcast de nouvelles alternatives de droite, mais bon, on va arrêter tout de suite. Nous avons avec nous Grégory Bellacelle, concepteur de jeux senior ou même avancé maintenant.
Hein? Oui, avancé. En âge, apparemment.
OK, on s'engagera pas là-dessus, ça risque d'être déprimant. Ça va bien, Greg?
Ça va très bien, merci.
Comment tu te sens par rapport à E3? On rentre pas dans les détails, là, mais ça aurait une émotion à mettre, un statut Facebook à mettre là-dessus, ça serait quoi?
Blasé.
Ouh.
Ouais, voilà,
ouais, Seigneur, OK. Ouais. On va changer de personne parce que je ne veux pas rester trop dans la sphère négative. Sinon, en face de moi, on a un gars qui est apparu sur la pochette du pay-per-view de la WWE, No Way Out 2003.
Oui, effectivement, la pochette arrière du DVD, c'est mon heure de gloire. Ce fut une pente descendante depuis, ça a été mon moment.
Juste pour ceux qui connaissent la lutte ou catch, parce qu'on s'adresse quand même à l'Europe, t'étais sur quelle photo? Il y a trois photos derrière. Là.
Il y a trois photos. No Way Out 2003 était un pay-per-view qui avait lieu au Centre Bell à Montréal.
Absolument.
Centre Molson, je crois, à l'époque, je ne sais pas. Donc, j'étais très bien placé, j'avais eu des super bons billets. Donc, lorsque les photos sont sorties pour l'événement, on me voit constamment, mais moi et ma gang, sur les photos, dont les photos d'arrière-pochette. C'était le fameux match, c'était Hulk Hogan contre The Rock numéro 2.
Quand
la
même.
Suite, oui. Et donc, ça apparaît et on me voit à l'arrière du DVD.
D'ailleurs, on va continuer un peu là-dessus, histoire d'emmerter les gens qui n'aiment pas la lutte.
Oui.
Ça avait été quoi ton match préféré de la soirée?
Mon match de la soirée, il y avait eu un très bon match. Le premier match de la soirée, c'était Jeff Hardy contre Jericho.
Oui.
Et il y avait une interférence de Christian, parce que c'était dans le temps que Christian et Jericho étaient ensemble. Et par la suite, qui a fait son apparition pour niveler les choses? Shawn Michaels!
Oh mon
Dieu!
Donc
j'ai vu Shawn Michaels live, ce qui n'est pas une petite chose. Donc c'était un bon match. Sinon, c'est sûr que le retour d'Austin a été très fort. C'était Austin contre Bischoff.
Oui, exactement.
C'est son retour après un hiatus de plusieurs mois. Et ça fut par un mémorable Scott Steiner contre Triple H.
Oui, qui avait l'air très merdique.
Donc non, le retour d'Austin, c'était assez fort.
Très bien, cool. Sinon, à côté de moi, j'ai actuellement, parlant de lutte, lutte, souvent, on a un terme qui s'appelle le Iron Man, c'est-à-dire quelqu'un qui produit beaucoup. Actuellement, j'ai un homme qui produit beaucoup de podcasts ces temps-ci et il se nomme...
Coupable. Mon nom n'est pas coupable, mon nom est Simon Forget.
C'est juste Simon Forget.
Je suis coupable de faire des podcasts, effectivement.
Donc, t'as enregistré hier, notamment?
Oui, on a enregistré hier. C'est encore le temps du E3, mais le temps des conférences est fini. Donc, le multicast que vous pouvez d'ailleurs trouver dans tout bon magasin proche de chez vous, à iTunes, Google Play et tout ça. Mais oui, on a fait un beau multicast justement sur le E3 où est-ce qu'on a fait un petit retour, des surprises qu'on a aimées. On l'a un peu analysé. On a eu beaucoup de plaisir. L'épisode va sortir justement au moment où l'épisode va être sorti, mais ça va être possible de le trouver également. Avec le multicast.
Ben, fantastique. Donc, si vous voulez avoir déjà un regard différent sur le E3, c'est disponible. Donc, oui, je vous reçois aujourd'hui pour simplement faire... On va garder ça simple. On mange de la poutine. On va faire un tour de table pour parler de différentes questions. Mais bon, on a dit on mange de la poutine. J'ai dit le mot tour de table.
Elle est délicieuse.
OK, ben regarde, on va faire un tour de table de poutine. D'abord, Greg, qu'as-tu pris?
Bon, déjà, on a été à Frit-à-l'heure, c'est ça?
Oui, c'est ça, Frit-à-l'heure.
Frit-à-l'heure, donc j'ai pris la tunisienne qui est... une poutine à base de merguez. De mémoire, pour ceux qui ont écouté et ou qui ont été présents à l'épisode qu'on a fait en direct, dans le cadre de Montréal Joue, c'était déjà la poutine que j'avais prise.
Toujours content de ton choix?
Toujours content.
On va encore, Maxwell, on va se l'avouer, parler de saucisse, mais quand même différemment.
Oui, exactement, parce que en fait, je prends la merguez et je te relance une saucisse hot dog qui a un nom, ma foi, très fancy, la viennoise. Oui,
d'ailleurs, je trouve ça un peu inapproprié. Ça aurait pas dû s'appeler, Stade olympique ou Expo.
Mais c'est parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la saucisse hot dog est née à Vienne, en fait, dans les années 50.
C'est-tu vrai, ça?
Mais elle est délicieuse. J'étais affamé. Ceci étant dit, je peux lui faire une critique. Mm-hmm. Il manque un peu de saucisse. la saucisse hot dog aurait été aurait aimé une partenaire.
Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des morceaux de brioche ou quelque chose comme ça. J'avais viennoiserie dans la tête, mais ouais, c'est tout.
Quelle généralisation. Je suis vraiment dégoûté, Simon, mais parle-nous de ta piscine quand même.
à risque de... Maxwell, oui?
J'allais juste demander si la majorité de vos commentaires sur Internet étaient plus reliés aux poutines qu'aux conversations, jeux vidéo.
Je te dirais, il y a un bon 33% de commentaires qui disent « Arrêtez de parler de poutine, j'ai faim, c'est difficile. »
Mais ça veut dire que 66% sont contents qu'on parle de poutine.
Absolument, oui. Wow.
C'est pour eux qu'on fait ce podcast. On les salue, c'est 66%.
C'est ceux qui ont faim. Pas parce qu'ils ont faim que c'est nécessairement des moins bonnes personnes. Sinon, ton côté, Simon?
Ben, arrête de se dire pas original, mais moi également aussi, j'ai une poutine tunisienne, c'est-à-dire merguez et oignons. Mais j'aimerais juste dire que mon choix était fait depuis hier, alors...
Donc, t'es en train de proposer un certain narratif, ou est-ce que Greg serait peut-être un peu inspiré de toi quand
Exactement.
Même?
Sauf que moi, déjà à Montréal juste cet hiver, j'avais pris quoi? Tout à l'heure, une tunisienne. Alors, donc, je te relance de cet hiver.
Qu'est-ce que t'as à rétorquer, Simon?
Quand est-ce arrivé au Québec?
En 99, avec la tempête de verglas aussi. Voilà,
je mangeais bien de la poutine avant que tu arrives ici, alors...
Mangeais-tu de la merguez avant que Greg arrive?
Non, je savais pas que ça existait.
Voilà. J'ai mangé de la merguez déjà en France.
Ok.
Comment ça s'agence l'oignon à la merguez? Est-ce que c'est...
C'est divin.
Ça s'agence bien. Oui.
Ouais, c'est pas mal. Une explosion de bonheur dans ta bouche.
Et pourtant, je suis pas un amateur d'oignons généralement, mais là, ça passe bien.
Très bien. Sinon, de mon côté, à l'opposé de Simon et de Greg, j'ai pris une excellente poutine au porc effiloché et ma foi, ça fait le boulot. Donc, on va commencer à parler du E3.
Quelle transition!
Ah, c'est vrai, on est là pour
parler de choses appétissantes.
J'essaie d'être pragmatique, efficace. Bon, ma première suggestion de discussion lorsqu'on avait commencé à parler de la construction de cet épisode-là, c'est de parler de l'appartement de Greg. Apparemment, Greg, moralement, tu n'étais pas très chaud à l'idée qu'on parle.
Non, mais j'ai plus pitié pour nos auditeurs qui n'ont probablement rien à faire de mon appartement, soyons bien honnêtes.
OK.
Détrompez-vous.
Cherchez un endroit central à Montréal lors de votre prochaine visite.
Oui, ouais. Absolument. On fournira l'adresse si vous nous envoyez.
Sur Twitter, ils peuvent me contacter.
Non, très sérieusement, Greg, tu sais, je suis un homme d'ouverture d'esprit. Quand on me dit non, Pat, c'est pas une bonne idée, je tends la main et je dis OK, propose-moi quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce que tu as proposé, Greg?
Ah, mais je pense que le 3, c'est un grand événement. Bien évidemment, on n'aura pas le temps de discuter de toutes les annonces, toutes les conférences, tout ce qui a été vu et entendu à l'E3. Mais je pense que c'est toujours intéressant un peu de regarder comment cette E3-ci se positionne par rapport peut-être à ce qu'on a vu, tu sais, ce qu'on parle d'un bon événement, d'un événement qui perd un peu de sa signification. On sait que veut pas de plus en plus, il y a beaucoup d'opportunités d'annoncer des jeux tout au long de l'année. Donc c'est toujours un peu intéressant de voir qu'est-ce qui t'annonce à l'E3, qu'est-ce qui est mis en avant et aussi comment est-ce que l'événement a encore ou non de la pertinence.
Voudrais-tu commencer, Greg?
Oui, bien sûr. Bah, écoute, moi, quand tu m'as posé la question, j'ai dit un peu blasé. Ça peut avoir l'air un peu méchant ou un peu... bon, OK, ça y est, le vieux développeur de jeux vidéo, il n'y a plus rien qui l'impressionne. Mais veux pas, même si je pense que c'était un très bon E3 dans le sens qu'il y a eu beaucoup d'annonces, on a vu quand même beaucoup de gameplay, beaucoup de jeux qui ont été vus jouables pour la première fois. Mais je ne peux pas dire qu'il y a nécessairement quelque chose que j'ai vu, puis j'ai fait « Oh, OK, là, ça m'a complètement pris au dépourvu. » Je ne peux pas dire non plus qu'il y a une conférence particulièrement qui m'a marqué par sa qualité. Je pense qu'il y en a qui étaient solides, d'autres qui étaient plus ordinaires. Mais au final, j'ai regardé ça en me disant « Ouais, bah, tu sais quoi, il y a des événements comme le PlayStation Experience, des fois, qui sont plus surprenants ou qui sont plus excitants que ce que j'ai vu à cette E3-là. »
Est-ce que ça serait attribuable justement au fait que là, le E3 maintenant, dans le positionnement par rapport à l'année, comme dans une position un peu moche, un peu dans le milieu, Noël est encore loin, donc on a envie de garder les gros canons pour la fin d'année?
Mais je pense qu'il y a beaucoup ça. Je vais prendre un exemple. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a eu un gros absent à l'E3 qui est Red Dead Redemption 2. C'est le gros jeu de l'année, il est hyper attendu, il sort en octobre. Il n'a pas été montré dans aucune conférence, il n'y a pas eu de nouveau trailer, il n'y a pas eu de démo à ce que je sache. Et pour moi, c'est très intéressant de voir qu'il y a un publisher, qu'il y a un gros jeu qui sort prochainement et qui ne daigne même pas le montrer à l'E3. Et quelque part, ça veut dire aussi qu'ils sont très conscients que maintenant, c'est plus vrai que si tu manques l'E3, ta campagne marketing pour ton jeu est problématique. C'est qu'en fait, maintenant, tu peux décider de dire « ça sert à rien que j'aille dans cette grande foire qui est l'E3, je peux décider de faire ma propre conférence, avoir tous les yeux tournés sur mon jeu et avoir beaucoup plus d'impact qu'en allant dans un événement comme ça. »
Je serais tenté de... peut-être dire qu'il faudrait faire attention face à ça, parce qu'on ne se le cache sûrement pas non plus. Rockstar est d'une position très privilégiée. Dans ce cas-là, on parle d'un développeur d'exception versus toute une industrie. Je pense que ça croit, c'est quand même important d'avoir un bon cycle de marketing où tu maintiens l'attention constante. Red Dead Redemption, peu importe, comme tu disais, on en a discuté d'ailleurs avant hier, S'ils font un marketing un peu plus poussé deux semaines avant la sortie, ça va se vendre quand même. Mais malheureusement, je crois pas que la majorité des développeurs peuvent se permettre ça.
Non, mais fut une époque, le nouveau jeu de Rockstar aurait été à l'E3.
Oui.
Je veux dire, maintenant, c'est plus le cas. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du fait qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient annoncés qui allaient sortir d'ici la fin du cadre financier. Donc, on parle du mois de mars 2019. Je pense que c'est pas un hasard. Tu n'as plus besoin maintenant d'annoncer puis de montrer tes jeux deux ans à l'avance à l'E3. Parce que tu peux faire une autre conférence où tu vas être tout seul, où tu vas pouvoir mettre l'accent sur ton jeu, puis avoir tous les yeux dirigés sur toi, parce que maintenant, il y a streaming, maintenant, il y a YouTube, et des façons d'aller chercher le consommateur qui ne passe plus nécessairement par des méga événements comme l'E3.
Mais justement, il y a de moins de grosses surprises, comme tu disais, parce que dans le fond, c'est que chaque éditeur a leur propre écosystème. Oui, il y a Red Dead qui est un bon exemple, mais on pourrait y aller avec quelque chose depuis longtemps qui a leur propre écosystème, Blizzard. Mm-hmm. Blizzard peut faire leur propre conférence quand ils veulent. Ils peuvent même faire payer les gens pour aller voir leur conférence de choses qu'ils ont à acheter. Quand ils sont dans des conventions, PAX ou peu importe, c'est juste une boutique. Ils ne présentent pas de jeux. C'est juste venez acheter des trucs et ça marche parce qu'ils ont leur propre écosystème. Rockstar a réussi à créer leur propre monde, leur propre communauté. Justement, je veux dire, les gens sont abonnés justement avec le Rockstar Club, si je me souviens bien. Mais aussi, moi, un bon exemple, sinon aussi Call of Duty aussi, quand on y pense, encore une fois, c'est Activision et tout ça, mais c'est le même principe. Avant Call of Duty, je veux dire, c'était partout, sans arrêt dans le 3, et on voulait en mettre plein la gueule. Ben oui, on en...
Mais non, effectivement, on n'a pas vu de grandes démonstrations de jouabilité comme on a vu il y a 5 ans, exemple.
C'est ça, puis même les jeux de sport, c'est un peu la même chose. Auparavant, dans les conférences de EA, les conférences de Microsoft, on parlait de football, le football américain, on parlait de FIFA et on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. EA, cette année, rapidement, on a un FIFA, ça vous allez aimer ça, voilà, prochain.
Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire à propos de FIFA? Ah, le gars botte mieux.
C'est sûr. Mais ça reste quand même qu'auparavant, on en aurait parlé, on aurait voulu le vendre. Mais maintenant, c'est comme si le jeu était déjà vendu, dans le fond, pour leur communauté.
Puis je pense qu'au final aussi, encore une fois, si tu veux vraiment avoir un événement, quelque chose de marquant, encore une fois, tu peux dire, regarde, on va faire une annonce, on va avoir un stream, on va avoir quelque chose. Tu sais que les fans vont être là, ça va être repris par la presse. Et l'avantage, c'est qu'au lieu de tomber dans la masse, dans la foule, d'annonce à l'E3, là tu vas avoir pendant une semaine par exemple, on va juste parler de ta grosse annonce, et je pense qu'au final c'est pour ça que l'E3 pour moi m'a un peu blasé. J'ai vu des trucs qui étaient cool, mais je pense que c'est plus vraiment la grande messe où t'as des annonces qui te gardent en tête pendant plusieurs années. Je pense que maintenant c'est vraiment rendu un événement parmi la liste d'événements, soit privés, soit les autres opportunités de Microsoft et de Sony, qui est tout au long de l'année, qui te permet d'annoncer ton jeu et de faire de la promotion.
C'est pas triste pour toi ça?
C'est triste et c'est pas triste, dans le sens qu'en même temps, je pense que c'est mieux de ne pas être obligé d'attendre un an pour avoir les annonces intéressantes sur des jeux. À la limite, je préfère me faire surprendre tout au long de l'année plutôt que d'être obligé d'attendre le mois de juin, puis de là de me claquer je ne sais pas combien de conférences et d'heures de vidéos pour essayer de tout organiser cette information-là.
Moi, je pense aussi aux développeurs. Je trouve qu'il y a quelque chose de très simple, très bien, de dire « on montrera le matériel quand il va être prêt ». Parce que je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des développeurs, le 2 mois avant l'E3, c'est souvent très infernal parce qu'il faut faire une démo, il faut s'assurer que ça fonctionne, que ça ne plante pas. Donc, d'avoir le temps de mieux maîtriser par soi-même son cycle de marketing, je crois que c'est vraiment positif.
Dire à la place, ils ont le droit de faire des démos tout au long de l'année et donc de devoir travailler comme des fous pour faire la démo E3, la démo du Gamescom, la démo du PlayStation Experience, la démo de l'événement Microsoft.
Ça garde les gens motivés, Greg, non?
Ah ben oui, c'est beau.
je pense que
ça fait travailler les gens.
Ça fait rouler l'économie. Et parlant de rouler l'économie, Maxwell...
Je vous écoute et vous avez parfaitement raison. Les développeurs s'étalent tout le long de l'année. Ce que je crois qui est particulièrement intéressant avec l'E3, c'est qu'ils sont tous là. Donc, tous les yeux sont rivés là-dessus. Je vous donne un exemple. Est-ce que tout le monde regarde le Tokyo Game Show, par exemple, avec autant de focus? Peut-être. Et parallèlement à ça, s'il y a des Rockstar qui décident de ne pas montrer leur truc, on attendait beaucoup, par exemple, de Metroid, tout ça, ben c'est du temps qui est dédié à d'autres jeux qui peuvent peut-être bénéficier, des jeux qui passeraient peut-être sous radar normalement. Je pense à des jeux comme, par exemple, Ghost of Tsushima, qui a été présenté par Sony, qui a bénéficié quand même d'un gameplay démo assez substantiel de 10 minutes. Un jeu qui aurait peut-être pu passer dans les cracks. Et là, on a pu voir, d'une part, c'est magnifique comme jeu. Donc, il y a quand même des opportunités à saisir au E3. Je suis d'accord avec vous, il y a eu un manque de surprises. il faut quand même se regarder dans le miroir avec toutes les fuites qu'il y a eu. On demande en tant qu'internaute le plus d'informations. On veut des informations rapides, tout ça. Donc, tous les leaks qu'il y a eu. Je comprends pas pourquoi des studios vont dévoiler à quelques semaines du E3 des jeux. Fallout 76 est sorti... il avait fait la même chose avec Fallout 4, Bethesda, si c'était pas comme 5 jours avant l'E3. Pourquoi? Je sais pas.
Éviter la mêlée, probablement.
Il faut savoir balancer tout ça. Je pense qu'effectivement... Oui, t'évites la mêlée d'une part, mais là, il manque un peu de punch. Les surprises qu'on a eues cette année, quelles sont-elles? J'ai de la misère à en trouver. Là.
Resident Evil 2 remake.
Resident Evil 2 remake.
Il y avait des rumeurs, mais moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à le voir.
Ben, je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Et ça a été une belle surprise, effectivement. Je savais qu'il y avait un remake qui était fait, mais un remake de cette trempe-là, de
moi,
cette envergure.
Je m'attendais à des nouvelles textures, moi. Ouais. J'avoue que j'étais un peu surpris. Ouais.
Donc, c'est ça. Et la question que je vous pose aussi, c'est est-ce que le manque de surprise... J'ai senti qu'il y avait beaucoup de retenue dans ce E3-là. Et mon diagnostic de tout ça, c'est qu'on a un changement de génération qui s'en vient beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu penser. Si on regarde les dates de sortie qui ont été annoncées, très peu de jeux sortent après le printemps 2019. Avec les délais, on peut imaginer que l'automne 2019 va être assez rempli. Mais après ça, il n'y a pas grand-chose. Et c'est là où est-ce que ces petites annonces, ces espèces de petits teasers auraient pu être intéressants. Est-ce que c'est parce que, comme vous dites, ils n'avaient pas de quoi montrer, ils ont dit on va montrer ça quand ça va être prêt, ou... Les développeurs se trouvent dans une situation où si on montre ça, il faut qu'on annonce que c'est pour la prochaine génération, comme Bethesda l'a fait avec Elder Scrolls et le...
Starfield.
Merci.
Néanmoins, Starfield, je me demandais, est-ce qu'ils veulent dire que c'est un nouvel engin, donc une nouvelle génération d'engins, ou une nouvelle génération de console? Ça, c'était pas nécessairement
Microsoft
clair.
Est allé encore plus loin en disant on travaille sur la prochaine console. Et ça, moi, ça me laisse un peu sur ma faim parce que je trouve qu'on commence à être sur notre air d'aller avec les consoles actuelles. Depuis l'année passée, là, on a vraiment des jeux importants, des jeux qui prennent profit qui tirent profit des consoles actuelles. Je trouverais ça dommage tout de suite de passer à autre chose avant de peut-être avoir atteint le paroxysme de ce que ces machines ont à offrir encore.
Là, j'ai pas mes notes actuellement, mais on est rendu à quelle année de la PlayStation 4? Quatrième année.
2013 ou 2014, c'est sorti 2013, je crois. Novembre 2013. Corrigez-moi. Corrigez-moi.
Le 15 novembre 2013.
Yes. Okay.
Et bon. Non, je ne suis pas surdoué, j'ai un ordinateur devant moi.
Ça va faire 5 ans.
Ça va faire 5 ans.
Si on se base, pas sur la dernière génération, l'autre avant, ça serait dans les temps. Ceci étant dit, on a eu comme des espèces de consoles de rallonge. Donc, on serait tenté de croire que cette génération-là de consoles pourrait être allongée. Mais en contrepartie, si on regarde les chiffres de vente de la PlayStation 4 Pro comme la Xbox One X...
Si on donne encore 2 ans pour ces consoles-là, ce qui serait parfaitement logique, ça serait aussi long que la vie de la PS3.
Oui.
Mais j'ai hâte de savoir comment Xbox vont nous vendre leur prochaine machine après avoir fait tellement état de leur puissance avec l'Xbox One X. C'est la plus grande machine, c'est la plus performante. Mais là, on en a une encore plus performante. C'est un peu rapide, mais bon.
Non, ben mon hypothèse, ça l'a tout le temps été, c'est que d'après moi, ces compagnies-là ont regardé qu'est-ce qui se faisait du côté des téléphones et ils se sont dit « et pourquoi pas pour nous ?» Et bon, finalement, il faut croire que les gens n'ont pas mordu.
J'ai quand même trouvé ça intéressant comment certaines présentations ou autres ont essayé d'être un peu différentes. Ben, elles sont différentes. Il y a Microsoft qui a été très traditionnel, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on présente pas mal de jeux, même beaucoup de jeux, et ça, tant mieux. Mais toujours le petit côté aussi, il faut satisfaire les investisseurs et tout ça. Un petit côté un peu plus corporate, on pourrait dire.
J'ai pas regardé la conférence, comment ça se manifestait?
C'est vers la fin surtout où est-ce qu'on commençait. Mais premièrement, voici l'acquisition de studios que nous avons fait. C'est vraiment le vocabulaire qui était utilisé. C'était pas « on va aider des studios à développer » ou peu importe. Vraiment, ça parlait d'acquisition. Avec par exemple le studio montréalais Compulsion. Déjà ça, c'est vraiment comme notre empire continue à grossir, encore une fois.
Moi, je suis pas d'accord avec toi que c'était un discours pour les investisseurs. Au contraire, je trouve que c'est un discours directement axé vers les joueurs qui, depuis plusieurs années, réclament plus de first party.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est, si on regarde le vocabulaire, pour moi, je pense qu'il y aurait eu une façon plus sexy dans ce cas-ci de dire on aide des bons jeux, on aide des bons développeurs, ils font partie de la famille, mais je trouvais que c'était plus créancier comme genre de vocabulaire qu'il y avait, tout simplement. Mais si on rajoute ça aussi en disant, bien qu'ils n'ont rien à faire, ils ont juste dit, ils ont parlé de next-gen, Ils ont en quelques secondes parlé, ah oh oui, cross-platform, tu vas pouvoir jouer sur tout et tout ça. Ils commencent déjà à y aller avec, comme Aswell, tu disais justement, comment est-ce qu'ils vont réussir à être convaincants avec une nouvelle console s'ils commencent déjà à sortir d'autres consoles de cette génération-là plus puissantes. C'est pas nécessairement une question de puissance maintenant, ça va être une question plutôt de service. La Switch en soi, c'est un peu ça aussi, c'est que tu peux jouer différemment. Dans le fond, c'est un peu ça l'idée, mais ils n'ont pas le choix aussi qu'ils vont essayer de suivre ça également. Et ça va peut-être être justement l'idée du fameux cross-platform, peut-être un partenariat avec Steam. Steam aussi est intéressé
surtout que c'est à l'heure du jour, avec tout ce qui se passe avec Sony puis Fortnite. Là.
Mm-hmm. Et c'est ça, et avec l'évolution des réseaux et tout ça, mais c'est la prochaine étape. Si la dernière console, l'idée, c'était vraiment d'être plus connecté, les réseaux sociaux et tout ça, mais là, la prochaine étape, c'est de jouer n'importe quand, n'importe où. Ça va être de plus en plus apporté. Ça, et aussi de le gamer en tant que service, que plutôt juste des produits que tu peux avoir. Il y avait des petites pistes de ça de Microsoft au-dessus de juste on présente plein de jeux. Sony qui est allé vraiment, qui avait moins de choses à présenter aussi. Ils sont allés d'un petit peu plus côté créatif. On va essayer de faire ça un peu plus méta avec une présentation avec des musiciens. Bon, est-ce que c'est raté ou non? Ça, c'est une autre histoire. Mais on explore un petit peu plus. EA, qui justement, eux autres aussi, commence à pousser lentement l'idée de service avec Origin Access Premier, c'est ça le nom?
Quelque chose comme ça, oui.
Ou Origin Premier Access, on joue avec les mots. Là.
Dans mon temps, c'était Origin, là, je ne sais pas où c'est rendu.
Ah, mais c'est ça, mais l'idée de un peu comme Game Pass, si tu paies un montant par mois pour avoir, c'est un peu comme un Netflix du jeu. Et on voit des tendances, et c'est sûr et certain que l'année prochaine, ils vont encore plus pousser ça, et quand on va être rendu vraiment dans les prochaines générations... ça va être une des choses principales qui va être proposée, c'est sûr et certain. Fait, je trouvais ça intéressant. Je veux dire, moi, je suis pas déçu du E3. Je veux dire, on a présenté plein de jeux et pas de grandes surprises, mais c'est ça maintenant. C'est dur d'être surpris maintenant avec l'Internet.
Pour toi, c'est-tu l'effet d'une industrie qui se cherche un peu actuellement ou qui essaie de se trouver une nouvelle direction en tant que plan d'affaires?
Oui, c'est, et ça, j'aime ça. Je veux dire, c'est un laboratoire en soi de l'industrie. Je veux dire, c'est ça tout le temps été comme ça, que ce soit des voitures ou du jeu vidéo ou du cinéma. On se cherche, on explore. Sony qui va d'un petit côté un petit peu plus créatif, comme je disais. Microsoft plus traditionnel, mais qui... Comme je disais, je ne vais pas me répéter, mais on explore. Et pour moi, ça fait de la saine compétition. C'est du capitalisme en soi. Et aussi horrible que ça qu'il peut être, des fois, le capitalisme, d'un point de vue créatif, ben, si c'est pour pousser et aller plus loin, pousser d'autres limites, ben, tant mieux, je veux dire. Mais c'est comme ça que je vois ça.
Absolument. Sinon, de mon côté, c'est un peu le même son de cloche que vous. En fait, pour moi, un peu comme Greg, j'ai été blasé, peut-être plus agressivement que Greg.
T'as-tu un trou dans ta télé? Ou...
Non, pas à ce point-là, mais je vais être honnête avec vous. Pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai quand même fait des recherches, j'ai revu les nouvelles. Les années précédentes, j'étais capable de regarder un tweet et arriver avec une liste à la fin et me dire « En novembre, je vais acheter le jeu ABC. Mm-hmm. » Cette année, j'ai de la misère à avoir un jeu A. Donc, pour moi, c'est un gros problème. C'est peut-être aussi que le type de jeu qui était présenté au E3, c'est pas le type de jeu que j'aime consommer maintenant. Il y a peut-être ce côté-là. Moi, ça me préoccupe parce que, comme vous avez mentionné, en fait, en théorie, on devrait être dans un cycle de maturité actuellement. Les gros jeux devraient sortir. Et on a des gros jeux. God of War est sorti récemment. C'est bon, c'est excellent. Mais j'ai vu le E3, puis ces grands jeux-là matures qui poussent un peu plus le jeu vidéo vers une autre direction... Je ne les ai pas nécessairement vus.
Si tu parles d'un point de vue technologique, par contre, je suis désolé, tu vois qu'il y a une maturité de la maîtrise de la machine, que ce soit Ghost of Tsukushima ou Last of Us 2, là, on parle de grosses claques techniques dans la face. Hein.
Non, définitivement. Moi, je regardais plus du côté de la jouabilité, du côté des systèmes. Je crois encore dans cette génération-là, il nous manque, si je fais référence à la génération précédente, Assassin's Creed, la première fois que j'ai vu ça, c'est la génération précédente, j'ai fait « Ok, purée, on ne peut pas faire tourner ça sur un PlayStation 2, c'est cool ». Ce jeu-là n'existe pas encore, cette génération-ci. Peut-être, comme Simon disait, on est plus dans le connecté, le multijoueur, des affaires de même. N'étant pas un fan de multijoueur, ça me va, ça m'affecte moins, ça me touche moins.
T'es un dinosaure, Pat, c'est ça le problème.
Peut-être. Mmh. J'aime Jurassic Park, ça cadre.
Mais je pense pas que c'est juste une question de jouabilité, c'est une question de créativité. Et tantôt, Simon parlait de créativité. Moi, je trouve qu'elle est absente. Combien de nouvelles franchises ont vu le jour dans cette génération? Moi, je pense à Horizon... Mais à part ça, là, j'ai beaucoup de difficultés.
Puis là, aux franchises, on s'entend, c'est un label que tu mets sur un Zelda, mais avec des dinosaures robots. Là. Tu sais, gameplay, il n'y a pas d'innovation.
Oui, exactement. Et c'est ça qui est fascinant. Si on compare avec la génération précédente, où on a eu des BioShock, Mass Effect, aidez-moi, là, que, ben justement, Last of Us a vu le jour, Uncharted.
Mirror's Edge, qui était un peu chaotique.
Gears of War... on est complètement ailleurs, là. Aucune nouvelle franchise. On mise, pardon, sur des valeurs sûres, des suites. Ce qui est intéressant, par contre, c'est cette espèce de remise à neuf. Donc, God of War en est un bon exemple. On remet au goût du jour des franchises passées. Mais
Resident
aussi...
Resident Evil aussi est un bel exemple.
Pardon? Resident Evil a été Resident Evil 7, qui est extraordinaire. L'autre chose aussi, on a vu beaucoup de franchises qui étaient très populaires au Japon passer du niveau de l'Occident. Pas qui n'étaient pas disponibles, mais qui n'étaient pas aussi populaires. Donc, des Persona, Yakuza. Mais au niveau créatif, je pense qu'on est dans une espèce de grande sécheresse. Et ça m'inquiète beaucoup plus. Et je pense pas que c'est juste au niveau du E3, je pense que c'est en général. Où sont les nouvelles idées?
Mais attends, la Death Stranding, c'est peut-être le métier que tu attends, là. Que clairement, tu peux pas dire que ça ressemble à d'autres jeux.
Ça, j'avoue que Death Stranding.
Même dire que ça ressemble à rien, mais
ça,
bon.
Non, on peut le dire, ça ressemble à un jeu de livreur de paquets. Mm-hmm. Finalement, le jeu de postier dont tu as toujours rêvé, voilà. Kojima l'a fait.
Parce que je dois t'avouer, quand j'étais jeune, Greg, s'il y avait une vocation que j'avais envie, c'est de, tu sais ça, aller livrer des fœtus dans des coffrets flottants en pleine nature.
Je pense que toi, toi et Kojima, vous êtes les deux personnes qui ont eu ce rêve étrange.
Absolument. Et des mécaniques aussi d'ongles infectés, sérieusement, c'est tout ce que j'attendais.
Et voilà.
Soit dit en passant, ça doit être le seul cri d'horreur que j'ai poussé pendant le E3, c'est effectivement cette section-là où est-ce qu'on a un personnage qui joue dans son ongle de pied infecté. Oh, là.
Bah donc Kojima a réussi à aller te chercher, c'était sûrement son but, c'est pas innocent, Pat.
Je pense que j'ai vraiment une connexion spirituelle avec lui, c'est fantastique. Donc oui, moi c'est ça, et sinon aussi, un peu comme Simon, j'ai trouvé que côté plan d'affaires, c'est la première fois que je trouve que l'industrie considère plein de plans d'affaires. On a eu une conférence de Nintendo où est-ce qu'on nous a annoncé « Ok, Fortnite est disponible maintenant, c'est disponible aujourd'hui, tout ça. » Donc, il y a beaucoup de trucs de distribution, de présentation de même que j'ai quand même trouvé très intéressant. Donc, avant, la recherche était plus dans le domaine des jeux indépendants, dans le domaine des jeux mobiles, mais là, cette espèce d'ouverture-là à différents plans d'affaires, elle est rendue au niveau des développeurs AAA, et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est ça pour notre tour d'horizon pour le E3. Là, j'aimerais qu'on y aille un peu plus dans le détail et qu'on parle de jeu. Donc, encore une fois, on va faire un petit tour de table. Je vais commencer cette fois-ci avec Simon.
Oh, coupable.
Je te prends. Ça fait deux fois que tu
fais
ça.
Oh, hey, c'est vrai. On a trouvé un pattern.
Ouais, ou des gags qui sont recyclés.
Ouais, possiblement.
Je vais y aller avec une question très simple. Simon, c'est-à-dire à dire, moi, là, mon jeu préféré du E3, c'est, trois petits points, ça serait quoi?
J'ai beaucoup aimé la présentation de Ghost of Tsushima. Parce que, d'ailleurs, dans le dernier multicast, j'avais créé la catégorie Notice Me Senpai, parce que j'ai remarqué que le Japon a un peu la cote ces temps-ci. Mais vraiment, je veux dire, Sucker Punch, qui a travaillé derrière Infamous, d'ailleurs, on arrive avec un jeu très rythmé, avec du bon combat, qui est d'une beauté, mais du moins parce qu'avec ce qu'on a pu voir, c'était incroyable. Pas le seul jeu de combat du genre au Japon, par contre, mais moi, j'aime les choses un petit peu plus rythmées, un peu moins... qu'on aime comparer à Dark Souls, par exemple. Alors, non, vraiment, moi, Ghost of Tsushima, je trouvais ça cool. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'on emmène l'environnement du Japon, mais sans que ça soit trop japonais. On tombe pas dans du mélodramatique. On tombe pas dans quelque chose complètement inaccessible pour certains occidentaux comme moi, qui n'est pas un fan d'animé, de manga ou de mélodrame dans des écoles. Je trouvais ça très, très...
Si t'es fan d'Akira Kurosawa, par contre, là, ça va te chercher.
Ben, je veux dire, on est dans Yoshimbo. Je vais pas te décevoir, mais c'est complètement du japonais, ce que tu viens de dire. Là, je comprends rien du tout. Mais, non,
quel très réalisateur de cinéma. Un des grands réalisateurs.
C'est de Samurai Yojimbo. Etc.
Non, mais c'est ça, mais en général, aussitôt que c'est quelque chose qui se passe au Japon, soit qu'on tombe dans le gros cliché quand c'est des studios américains qui travaillent là-dessus, ou sinon, on tombe dans des choses qui sont beaucoup, beaucoup trop japonais ou qui tombent dans certains clichés parce que c'est très, très, très codifié la façon qu'il faut faire justement des œuvres au Japon. Là, cette fois-ci, je pense qu'il y avait quand même un beau respect, une approche assez occidentale, très accessible. Et je trouvais ça super, super intéressant. Et j'ai hâte d'en voir plus pour ce jeu-là.
Pour les Sucker Punch ne sont pas japonais.
Non, c'est californien.
Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que c'est pas un jeu fait par des Japonais, même si ça se passe au Japon.
C'est ça. C'est un jeu occidental, mais vraiment qui semble bien visiter le Japon dans la façon de le représenter. Je trouvais ça intéressant.
Moi, je dirais le reproche que moi et mes collègues on a fait quand on a vu la vidéo, c'est qu'en termes d'environnement et de personnages, le jeu est effectivement magnifique. En termes d'animation, surtout dans la mesure où c'était le vidéo juste après Last of Us 2,
ouais.
qui a probablement parmi les meilleures animations qu'on a vues cette génération. Les animations, par contre, ne sont pas au même niveau que le reste du jeu. Et je trouvais que ça ne rendait pas service, en fait, au jeu de se retrouver juste après Last of Us. Si on avait inversé, je pense qu'on l'aurait moins remarqué. Mais là, le delta était assez significatif entre les deux.
Aussi, quelques réserves. Et je suis comme toi, Simon, j'ai beaucoup aimé la présentation. Par contre, je ne suis pas un fan d'Infamous. Je trouve que c'est un jeu qui avait une bonne prémisse, mais qui, dans l'exécution, était un peu boiteux, surtout au niveau des ennemis. Tu avais deux sortes d'ennemis dans ce jeu-là. Et tu te battais contre les mêmes trois ennemis et ça devenait répétitif. Et j'ai peur que...
Est-ce qu'il manquait de samouraï dans Infamous? Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Parce que je pense qu'ils vont régler le problème.
Non, mais une certaine variété au niveau de quelles sont tes missions. Dans Infamous, tu fais la même chose pendant 20 heures. Donc, tu voles, tu glides sur des fils électriques et tu te bats contre les trois mêmes méchants et tu vises la tête. Et... Donc, ça, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de variété. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé que c'était fabuleux, magnifique. Poétique aussi, il y avait quelque chose de visuellement très...
Oui, vraiment.
T'es sur une belle lancée, Maxwell. Oui. Tu parlais de ton coup de cœur du E3.
Oui, si vous me demandez aujourd'hui quels sont mes jeux auxquels j'ai le plus hâte de jouer, ben c'est sûr que ce sont Last of Us 2 et Cyberpunk. Par contre, j'ai la particularité de ne pas vouloir en savoir. Quand je suis vendu sur un jeu, comme c'est le cas pour Cyberpunk, Media Blackout, je ne veux rien savoir, je ne veux pas voir de preview.
Malgré le fait que c'est first person.
J'avoue que ça m'a fait un petit « Ah, mais je serais mal pris pour ne pas avoir confiance. » Je vais leur donner le bénéfice du doute.
On risque encore de parler de ce jeu-là tantôt, je le dis, spoiler alert, mais tu as sorti le point de la première personne. Je suis fasciné à quel point sur Internet les gens réagissent violemment à ça. Est-ce que c'est juste le fait que les développeurs de Witcher, qui est traditionnellement en troisième personne, font un jeu en première personne et là les gens ne coupent pas? Je comprends pas c'est quoi le mal là-dedans.
Le changement fait peur, Pat. Le changement fait peur.
Il y a aussi, soyons honnêtes, il y a déjà eu un jeu action RPG Cyberpunk qui est sorti en première personne qui s'appelle Deus Ex. Mm-hmm. Et ben, le dernier, on peut pas dire non plus que ça a été le succès de l'année. Et je dirais, il y a le même débat pour tous les jeux Bethesda d'ailleurs. C'est quand Fallout est passé en first person, il y a beaucoup de gens qui étaient, ben non, ça marchera pas. Donc je pense effectivement, il y a une peur, la peur du changement.
Changement de quoi? Cyberpunk, c'est le premier jeu de la série, non?
Non, mais dans le sens
les gens l'identifient incroyablement à Witcher.
Ouais.
Pas, je pense que le monde devrait pas. Tu as le droit de faire quelque chose de différent, mais bon.
Tout à fait. Puis je vais être honnête, je pense que par contre, la raison en arrière, pour ceux qui sont développeurs pour confirmer, un jeu en troisième personne, ça coûte énormément cher en termes d'animation. Et plus tu as un personnage qui peut faire beaucoup de choses, plus ça coûte cher. Surtout si tu veux avoir un certain niveau de qualité. Donc automatiquement, là, on parle d'un personnage qui peut hacker, qui a de la navigation, qui peut entrer dans les voitures, qui peut faire je ne sais pas combien de différentes actions, probablement beaucoup plus que Witcher 3. C'est sûr que pour eux, aller en première personne, ça leur permet de sauver énormément, en fait, sur tout ce qui est animation du personnage principal. Et je pense que veuve pas, faut pas oublier, c'est des projects. On parle pas d'un studio à l'Ubisoft avec 2000 personnes sur 8 studios. Ça reste quand même relativement un petit studio à proportion de jeu AAA. Et donc, il y a des choix qui sont faits. De leur côté, ils ont fait non, on a fait ça en première personne parce qu'il y a des raisons
d'immersion.
Mais je pense que, soyons bien honnêtes, c'est pas les seules raisons. Je pense qu'il y a aussi des raisons purement... Ben à un moment donné, il faut que le jeu, on ship, faut que le jeu soit le meilleur jeu qu'on puisse faire. Et aller en première personne, ça règle énormément de problèmes.
Donc, si j'avais à nommer un jeu qui m'a fait faire un petit pipi nerveux de joie, là, ben j'irais avec vraiment le remake de Resident Evil.
Parce que tu viens de rendre un podcast explicite, mais je t'en prie, continue.
Ah oui, voilà. Faut pas dire pipi, c'est ça?
Non.
Nerveux.
Non.
Lequel des deux? Donc oui, le remake de Resident Evil 2, on en a parlé un petit peu plus tôt. Je suis très excité. Resident Evil 7 est un jeu extraordinaire, justement parce qu'il a pris une base solide et a réinventé. Là, je pense pas qu'on réinvente le jeu de Resident Evil 2, mais je suis vraiment curieux de savoir cette nouvelle approche de Capcom, comment ça va se traduire dans ce classique.
Ont-ils explicitement parlé de nouvelle approche?
C'est over the shoulder, là. C'est plus, les caméras sont plus fixes, donc on suit un peu comme Resident Evil 4, par exemple.
Oui, d'accord.
Et ça, je trouve que c'est quand même une réexploration d'environnement connu. C'est assez intéressant.
Ils risquent de refaire le voice acting.
Aussi.
En fait, c'est confirmé.
C'était une blague parce que c'était vraiment horrible, le voice acting.
Et ils ont parlé aussi de nouvelles histoires. Les histoires allaient s'interchanger, mais les points de rencontre entre les deux histoires allaient être sensiblement différents. Donc, je pense qu'on va avoir une expérience qui va être familière, mais quand même à quelques clins d'œil intéressants, des changements qui vont faire du bien. Ceci étant dit, moi, j'ai pas beaucoup joué au Resident Evil 2. J'ai connu Resident Evil sur le tard, avec le remake sur la GameCube, je pense en 2002, ça.
Mm-hmm.
Donc, j'ai joué un petit peu, mais je ne peux pas dire que j'étais un fan du premier. Mais en fait, du deuxième. L'original, merci. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers-là parce que c'est un des plus grands jeux, selon certains. J'ai hâte de le plonger.
Et la belle ironie, c'est que malgré que ça utilise l'engin de Resident Evil 7, cette fois-ci, ce n'est pas en première personne, mais en troisième
et voilà,
personne.
C'est le retour du balancier. Ah,
c'est merveilleux, le développement de jeux vidéo.
Sinon, Greg...
Écoute, c'est relativement difficile parce qu'en fait, bon...
Tout est de la merde.
Non, je sais. c'était difficile parce que, bon, oui, il y a des jeux qui sont beaux, il y a des jeux que je vais jouer, c'est sûr. Last of Us 2 étant une évidence. Cyberpunk, je sais qu'on va en reparler, donc j'irai pas trop là-dessus. Malgré le fait que la seule démo jouable que les gens ont vue, qui apparemment est vraiment très bonne, était une présentation privée derrière porte close, donc on n'a pas vu de vidéo de gameplay, juste la vidéo... cinématiques qu'ils ont montré. Les deux jeux qui m'ont plus marqué, un dont je vais brièvement parler parce qu'on n'a rien vu, qui est Starfield, qui est le nouveau RPG de Bethesda, qui est dans l'espace, où on n'a absolument rien vu. Mais est-ce qu'on sait que ça fait des années qu'ils développent ça? C'est leur première nouvelle IP, parce que Fallout n'était pas une nouvelle IP, même s'ils ont fait...
Quoi?
Non, ça existait avant. Donc depuis Elder Scrolls, c'est la première fois qu'ils font un nouvel IP au complet. Et c'est un RPG dans l'espace, et j'espère que ça va être un Skyrim dans l'espace, donc on va pas être juste dans du Mass Effect, mais qu'on va pouvoir se promener où on veut. Mais j'ai rien vu, on a vu un titre, et en disant, ça va sortir à un moment donné, mais on sait pas quand. Donc le seul jeu vraiment qui m'a excité, et d'ailleurs j'ai hâte parce que ce soir je joue à la démo, c'est un jeu sur la Switch, et là on tombe dans le old school RPG Square Enix, qui est Octopath Traveler. Et non seulement ça fait longtemps que je le suis, parce que bon, il y a vraiment l'esthétique des jeux sur Super Nintendo 16 bits, les Chrono Trigger, les Final Fantasy VI, etc. Mm-hmm. Mais en plus, dans la courte vidéo qu'ils ont montrée, il y a l'air d'avoir un job system. Et là, ça a été le truc qui m'a vendu à déjà l'anticipation que j'avais en disant, OK, si on parle de turn-based battle en pixel et avec un job system, qu'est-ce que je ne peux pas aimer dans ce jeu-là, Pat? Je te le demande.
Moi, j'ai une question d'abord. On va le dire, tout à coup que ça soit une surprise, j'étais un grand ignore en jeu de rôle japonais des années 90, parce que bon, ça avait pas l'air d'être des bons jeux à l'époque, ça a été mon erreur.
Sacrilège.
Sacrilège, je suis désolé. En quoi c'est fantastique d'avoir un job system dans un RPG japonais en 2018?
Ce qui a toujours été intéressant avec le job system, c'est le côté flexibilité et liberté, c'est-à-dire que par rapport à des jeux traditionnels où il y avait une classe par personnage, donc ça veut dire si tu veux un personnage qui soigne, c'est ce personnage-là, puis il va juste soigner tout le long du jeu, c'est que là, ça te permettait vraiment de décider comment tu voulais composer ton équipe. Et moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on te donne des systèmes et que si tu es capable de trouver comment briser le jeu, c'est pas grave, le jeu fonctionne et tu as le plaisir d'avoir juste des personnages qui sont complètement destructeurs. Et le job system, ça a toujours été un peu ça. Ça a été comment est-ce que je peux combiner les différents jobs, les différentes habilités pour avoir des personnages qui font juste exploser tous les ennemis sur mon passage. Et donc, il y a vraiment un plaisir à décortiquer les mécaniques, à essayer de trouver les combinaisons. Et juste cette expérience-là, si en plus tu rajoutes le fait que tu as une bonne histoire, tu as des personnages attachants, mais juste le côté mécanique est beaucoup plus profond quand c'est juste de l'équipement, quand c'est juste de leveler up, c'est que t'as vraiment une manipulation des systèmes que moi, personnellement, je trouve particulièrement intéressante.
Si je parle présentement des gens en game design, fait que il y a un peu de psychologie là-dedans aussi. Le but, dans le fond, d'un jeu, c'est de récompenser un peu la personne. Et c'est justement le fameux job system, c'est d'un point de vue psychologique, ça te stimule beaucoup parce que tu te sens malin. Tu te dis, c'est moi qui ai pensé de mélanger ces choses-là. On m'a donné tout plein d'ingrédients, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Et des fois, ben, ça marche plus ou moins. Alors, t'apprends de tes erreurs, mais souvent, c'est tu fais « Oh, ça marche, j'ai optimisé quelque chose » et vraiment, c'est tellement satisfaisant comme design, je trouve, de faire ça. Alors, moi aussi, job system.
Exactement. Et j'aime beaucoup l'approche marketing. Donc là, c'est en train de télécharger parce que je pense que on est 14 aujourd'hui quand on enregistre. La démo, tu peux garder ta sauvegarde et l'utiliser quand tu veux voir le vrai jeu. Et pour moi, ça, c'est parfait parce que non seulement tu me laisses essayer le jeu, mais en plus, tu respectes mon temps. Donc, le temps que je vais mettre là-dessus, je sais pas combien de temps est la démo, mettons une heure ou deux. Mais c'est pas du temps qui est perdu, c'est du temps que je vais pouvoir utiliser quand le vrai jeu va sortir pour continuer ma partie.
Next Gen, ça sera que ça, je suis sûr.
Bah, honnêtement, pour moi, ça devrait être un standard. Si c'est pour faire une démo au jour d'aujourd'hui, arrange-toi pour que le temps que j'investisse là-dedans ne soit pas du temps perdu.
Mm-hmm. Très bien. Et sinon, de mon côté, ça va être un peu déprimant, mais le jeu qui m'a suscité le plus de réactions, moi aussi, c'est une satanée bande-annonce en pré-rendu, et c'est celle de Cyberpunk 2077.
Donc... Oh, quelle surprise!
Ouais, vraiment. D'abord, je suis un grand fan de Cyberpunk, ça aide, mais deuxièmement, je parlais un peu en début d'épisode d'avoir ces jeux-là qui nous amènent à croire que la nouvelle génération s'en vient. L'esthétisme de la bande-annonce, l'univers qu'on présentait, tout le type d'actions différentes, la variété de personnages. Certes, c'est du pré-rendu, encore une fois, ça se peut que ça soit de la grosse bullshit. Désolé pour mon vocabulaire. Oh. Et oui, je suis intense de même ce soir. Peut-être c'est juste du spectacle, mais comme tu as mentionné, il y a eu des démos aussi qui ont été faits derrière des portes. Il y a quelques rapports qui ont sorti et supposément, ça a s'aligné sur qu'est-ce qu'on voyait dans la bande-annonce. Peut-être après ça, tout ça est un couloir, on verra. Mais je trouve ça très encourageant, ça me fait vraiment triper. J'ai pas joué une tonne à Witcher, mais le petit peu que j'avais joué, le développement d'univers, j'avais vraiment apprécié. Et dans cette bande-annonce-là, on voyait un univers bien défini, on voyait un univers viscéral, on voyait un univers varié. Donc, moi, je trouve ça très encourageant.
La question que je te poserais, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est une remarque que beaucoup de mes collègues ont fait aussi. Généralement, quand tu fais un jeu dans un univers cyberpunk, le code du style veut souvent que ce soit du néo-noir. Donc, beaucoup de néons, une inspiration années 80, mais également, ça se passe la nuit, il fait noir, pour faire le contraste justement avec les couleurs plutôt fluorescentes. Et là, ils ont fait le choix de faire une bonne annonce qui se passe le jour en plein soleil.
Moi, c'est vraiment, ils ont été chercher le côté punk dans le mot cyberpunk. C'est peut-être ça que j'ai trouvé intéressant. Ils ont embrassé quasiment le côté culture pop extrême. Donc, je pense justement que c'est une tentative de faire quelque chose de différent. Ceci étant dit, corrige-moi, c'est basé sur un jeu de rôle...
Oui, un jeu de rôle plateau qui date, je sais pas, je pense à peu près des années 80 dans ce coin-là.
Est-ce qu'il y avait déjà un univers visuel attaché à cette franchise-là et peut-être une récupération de ça?
Oui, mais en fait, je veux dire, encore une fois, le jeu de rôle, bon, aller dans les codes très classiques, plutôt film noir.
La soundtrack,
plutôt...
ça a du Joe Dassin.
Peut-être j'ai pas quand même. Mais en fait, ils ont un cycle de jour et de nuit. Et enfin, encore une fois, je pense que c'est très intelligent de leur part. Dans le sens que si ça avait été encore un autre jeu futuriste en pleine nuit, bon, tu fais les comparaisons avec Blade Runner, tu fais les comparaisons avec Deus Ex, etc. Mais en arrivant comme ça, pouf, deux jours, en te montrant le monde ouvert, tout en disant, on a aussi un cycle jour et nuit. En plus, ce qu'on vient de dire, il y a beaucoup de verticalité dans la ville. Donc, en termes d'espace, ça va peut-être pas nécessairement être plus gros que Witcher, mais ça va être beaucoup plus dense parce que tu as de la verticalité. Donc, l'idée que si tu es en plus dans les sections malfamées, ben là, la lumière du soleil ne se rend peut-être pas. Donc là, tu as vraiment le côté angoissant. Ça veut dire que c'est avec un jeu qui risque d'avoir beaucoup de contraste. Et encore une fois, je pense que si tu es pour faire de l'open world, si tu es pour livrer une expérience qui va faire rêver les joueurs, c'est une très bonne approche.
Mm-hmm. Si je peux juste rajouter une petite information, on parlait tantôt du nombre d'employés avec CD Projekt. J'ai fait une petite recherche durant ce temps-là.
T'es vraiment le recherchiste des années, ce soir.
On parle de 700 employés, donc c'est un plus ou moins, on va supposer ça. Tandis que si on veut comparer avec Ubisoft Montréal, on est à environ 3200.
C'est ça. Puis sur les 700, il y a des mondes qui sont sur Gwent, il y a du monde qui sont sur GOG. Et il y a bien évidemment la majorité doit être sur Cyberpunk.
Et voilà.
Sinon, avez-vous lu un peu les rapports à propos de ce jeu-là? C'est oui, avez-vous des retours, des sentiments confirmés? Est-ce qu'il y a des trucs où est-ce que vous vous sentez trahi?
Moi, jusqu'à maintenant, tous les retours que j'ai lus de gens qui ont vu la démo ont l'air de dire que c'est la meilleure démo qu'ils ont vue à l'E3. Mm-hmm. Donc, il semblerait que ça, du moins que la démo livre ses promesses. Après ça, encore une fois, comme tu dis, le jeu, on ne sait pas quand il sort. Ça peut être dans 2 ans ou 3 ans. À quoi va ressembler le jeu à ce moment-là? Des fois, une démo, c'est un plus petit microcosme, c'est plus facile de pousser la qualité. Quand tu dois livrer un jeu au complet, ça, c'est une autre histoire.
Non, c'est ça. Mais au moins, c'était rassurant de mon côté. Ils ont l'air vraiment d'embrasser le côté jeu de rôle. Parce que, tu sais, bon, il y avait des flingues, tout ça. Tu sais, OK, ça, est-ce que ça va être finalement plus un jeu de tir qu'un jeu de rôle, comme on peut voir chez BioWare actuellement? Donc, pour moi, tout est rassurant actuellement. Il faut juste que, bon, comme tu dis, tout se suive, qu'on ait quelque chose d'ouvert et on risque d'avoir un très bon jeu. Et tant qu'à y être, on a bien évidemment consulté nos auditeurs, nos auditrices sur les réseaux sociaux à propos de leur coup de cœur. Antoine, Claire Renaud, de son côté, vraiment, bon, ça a l'air d'être un vendu de Square Enix, a vraiment apprécié Kingdom Hearts 3. Greg, c'est dans ta juridiction, parle-moi-en.
Honnêtement, moi, ce qui m'a surpris, le jeu a été montré chez Microsoft, chez Square Enix et chez Sony. Je crois qu'à chaque fois, le trailer était différent.
Oui, surtout au niveau du son.
Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que tu te dirais, bon, d'habitude, tu réserves ça, mettons, pour un Call of Duty, tu vois, le jeu multiplateforme que tout le monde veut montrer parce que c'est super important de l'avoir sur ta machine. Et là, on parle quand même de Kingdom Hearts 3. Alors, je comprends qu'il y a du Disney et que c'est probablement celui qui a le plus de Disney de toutes les Kingdom Hearts. C'est sûrement le dernier de la série, mais honnêtement, ça m'a énormément surpris de voir à quel point il y avait de l'attention donnée à ce jeu-là. Cela étant, ça a l'air génial. Mm-hmm. Moi, je me dis, le fameux remake de Final Fantasy VII qui est On ne sait pas trop dans les limbes. S'il devait répondre juste l'engin de Kingdom Hearts 3, mettre Cloud et compagnie et prendre le même...
T'enlèves Elsa, puis...
Tu remplaces Goofy Dingo par tes autres personnages. Et c'est la même expérience, mais dans l'univers de Final Fantasy VII, je pense que ça ferait un bon jeu et j'y jouerais.
Très bien. D'ailleurs, j'ai pas vraiment regardé parce que je suis pas un fan de Final Fantasy VII, mais est-ce qu'on a eu un rapport d'avancement?
Rien du tout. Ben non.
Wow.
Silence radio.
Ça va très bien. Mais c'est ça qui arrive quand on tire des jeux des mains des Montréalais. Ça se perd dans la brume. Hey, on va continuer. On va parler maintenant de surprises. Parce que c'est très bien, les surprises. Je sais pas si chacun de votre côté, vous avez eu des surprises positives ou négatives dans le contexte de ces trucs. Je vais d'abord commencer avec toi, Greg.
Tu attendais pas, hein?
Non, j'en avais une.
Je t'ai pris par surprise. Sinon, Maxwell, veux-tu y aller?
Oui, pendant que Greg réfléchit.
J'essaie de retrouver ma surprise.
Moi, ma surprise, ça a été l'acquisition de Ninja Theory par Microsoft.
Oui.
Un gros coup qui me surprend parce que on se rappellera que durant le développement de Hellblade, Senua's Sacrifice, Ninja Theory avait dit comment eux autres, c'était fini, les grands studios, ils en avaient marre du triple A et des contraintes. Et là, de les revoir tout de suite se pencher et faire du bisou avec Microsoft. J'ai trouvé ça assez surprenant. Donc, j'ai été surpris. Ceci étant dit, je crois qu'on peut s'attendre à un très grand jeu parce que Ninja Theory ont toujours fait des bons jeux, mais c'est un peu les séries B des jeux AAA. C'est comme du 2A, si vous voulez. Je sais pas si vous avez joué à...
Ouais, c'est comme le Ants de A Bug's Life.
Pour moi, c'est toujours des jeux qui ont une qualité visuelle triple A.
Extraordinaire.
Ça, je pense qu'on est d'accord. À quelques exceptions près, au niveau du gameplay, la sauce n'était pas vraiment là. C'était soit très superficiel,
ouais.
Ça manquait de profondeur. Je pense que Setsuna, ça marchait bien. C'était un jeu plus court.
Ouais.
Mais ils ont toujours eu de la difficulté de faire des jeux de 15 ou 20 heures,
ouais,
qui gardent l'intérêt du joueur malgré la qualité visuelle.
Ceci dit, moi, j'ai adoré Enslaved. J'ai trouvé que c'était un très bon jeu qui méritait cette douzaine d'heures de jeu. J'ai pas joué à Heavenly Sword, par contre, ni à DMC. Mais je pense que lorsqu'on va combiner cette expertise visuelle et narrative, parce qu'ils font des jeux dont Enslaved, c'est Andy Serkis qui faisait le mocap pour César dans La Planète des Singes et Gollum. Merci. Et c'est vraiment la qualité narrative est supérieure, tout comme Hellblade d'ailleurs. Donc ça, combiné avec un budget AAA, je suis très, très, très curieux de savoir ce que ça va donner d'ici plusieurs années parce que bon, ça sortira pas demain, là. Mais ça, j'ai été vraiment surpris.
D'ailleurs, c'est un point intéressant parce que je crois qu'il y avait eu des conversations après ça avec les gens de Ninja Theory après l'annonce d'acquisition. Justement, eux autres avaient expliqué qu'ils voulaient se faire acquérir par Microsoft, pas faire du AAA, justement, un peu conformément à ce que tu disais. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'eux autres disaient qu'ils voulaient rester dans le double A, probablement.
Ouais, exactement, ils aimaient ça. Puis en fait, ça leur a bien servi parce que Hellblade a très, très bien vendu.
Mais est-ce que, justement, Microsoft a une stratégie nouvelle de dire « OK, oui, certes, on a nos gars de Gears faire du AAA, on a les gars de Halo faire du AAA, mais aussi on a une escouade de développeurs qui sont peut-être prêts à faire des jeux de plus moindre échelle, mais qui vont sortir plus fréquemment? »
Et encore une fois, l'idée, c'est que si, grosso modo, ce que Microsoft a dit, nous, on a un intérêt à avoir des jeux plus courts,
mm-hmm,
mais qui ont une qualité AAA, d'ailleurs, c'est ce que les gens appellent le triple indie ou l'équivalent, donc des jeux qui sont faits indépendants, qui ne sont pas nécessairement avec le même scope, mais qui sont de très haute qualité, qui sont presque aussi haute qualité que les jeux AAA. Donc si Microsoft dit, regarde, nous on a clairement un intérêt pour ça, ça nous permet d'avoir des jeux qui sont plus courts que des jeux qui sont 60, 80, 100 heures. Il y a peut-être effectivement là un match qui marche, dans le sens qu'eux, ils n'ont plus de problème de budget, ils peuvent vraiment pousser leur technologie où ils veulent, mais ça ne leur demande pas non plus de faire du open world game as a service.
Cette analyse-là est très intéressante parce qu'en plus, je trouve que ça cadre très bien dans leur stratégie de modèle d'affaires. On se rappellera sous peu, je ne sais pas même si c'est disponible maintenant, je n'ai pas d'Xbox, mais il y a une passe que tu peux acheter maintenant pour jouer aux jeux plus récents de Microsoft.
Tout à fait, qui est encore là. Et d'ailleurs, même, il y a un spécial, je pense, en ce moment, 6 mois pour 30$.
Donc, c'est ça, je crois faire des jeux beaucoup plus courts, ça s'inscrit très bien dans cette démarche-là.
Populer le catalogue.
Exactement, populer le catalogue de un, mais de deux, si les gens paient à chaque fois, ça fait moins de sens de faire des jeux avec une longueur de gameplay infinie. C'est-à-dire, OK, t'as fini avec cette expérience-là, ben il y a une autre expérience pour toi, et je crois que c'est une meilleure manière de garder les gens dans la colle, en fait.
Ouais, c'est intéressant, c'est pas faux.
Et il y a un marché pour le single player, God of War l'a très bien montré, et je pense que Microsoft, souvent... pendant longtemps, ont un peu nié ça. Dit, non, non, ça s'en va vers le multijoueur. Et là, ils se sont rendus compte, non, God of War a vendu des chiffres assez impressionnants. J'ai pas les chiffres devant moi, mais donc peut-être que c'est une réponse. Ils veulent leur God of War, ils veulent leur franchise, leur studio créatif qui vont créer des bons jeux single player.
Très bien. Sinon, Greg, la surprise a-t-elle remonté
en
bas?
Ben en fait, mais grâce à Maxwell, en fait, oui, moi, ma surprise, c'était l'annonce des acquisitions de Microsoft, ce que ça fait. C'est pas nouveau. On sait qu'ils voulaient regarder pour faire des acquisitions. Et les rumeurs allaient un peu de, les développeurs de PlayerUnknown's Battleground. Il y a des gens qui disaient, est-ce qu'ils pourraient essayer de racheter Valve? Il y a des gens qui disaient, est-ce qu'ils vont essayer de racheter EA? T'sais, tout le monde pensait à des, relativement des gros studios d'envergure. Et ils sont plutôt allés vers 4 studios indépendants et fondé un nouveau studio avec un des anciens dirigeants de Crystal Dynamics. Et c'est intéressant.
The Initiative, ça?
Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Qui va être à Santa Monica. Et donc, c'est intéressant parce que je pense qu'à peu près personne nécessairement s'attendait à ça. Je pense que les gens s'attendaient à des studios avec au minimum des franchises établies que Microsoft pourrait mettre sur un paquet de plateformes et un paquet de formats. Et à la place, ils ont été vers des studios qui font plutôt des petits jeux avec, on va dire, au moins une... à part ceux de Forza Horizon qui faisaient déjà du jeu Microsoft de toute façon. Mais sinon, les autres, c'est plus des jeux vraiment artistiques, des jeux narratifs, effectivement des jeux qui sont plus single player. Et moi, ça m'a surpris. Je pense que ça en a surpris d'autres. Je pensais pas nécessairement que ça allait être leur move d'acquisition pour essayer d'avoir plus de jeux first party. Et l'autre truc que je trouve intéressant aussi, c'est que là, ils viennent officiellement de faire le pari de dire on sait parfaitement que cette année, on n'a pas vraiment d'exclusif. 2019, on va voir, il va peut-être y avoir du Gear, etc. Mais il n'y aura peut-être pas grand-chose. Ça va peut-être plus 2020, dépendamment, où là, on va commencer à voir le résultat de leur acquisition. Donc, c'est une bonne façon pour Microsoft aussi de dire, regardez, on n'est pas là pour le court terme. On n'est pas prêt à sortir du jeu vidéo. On vient de faire des acquisitions avec des jeux qui vont peut-être sortir dans 2 ans parce qu'on est là pour rester, continuer à faire des jeux.
Très bien. Ici, je me tourne la tête, je regarde un beau et jeune et fringant Simon.
Présent.
Oh! Sinon, ta surprise, Simon?
Gears of War est arrivé avec des Funko Pop et comme façon d'introduire un nouveau jeu. Ça m'a assez surpris, dans le sens que c'est une absurdité totale.
Ouais, moi, on dirait que c'était le pire. Tu sais, deux mondes du mercantilisme qui se croisent pour faire un gros truc dégueu. Ouais.
Mais c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je voyais. Puis là, déjà, là, je dis, on prend pour un imbécile. J'avais vraiment l'impression de me prendre pour un imbécile un peu. Mais en plus, tu sais, de prendre Gears of War, que c'est un peu comme prendre Transformers. Là, c'est de la grosse action violente qu'on, honnêtement, tu te casses pas la tête. T'as beau essayer de faire du développement psychologique de tes personnages, tout ça, là, c'est Gears of War. C'est comme Master Chief, essayer de mettre des émotions dessus. Là, ils le font, mais ça reste quand même bof.
Ça marche pas bien, il y a un casque à la tête, mais je t'en prie, continue.
Ouais. Si tu veux qu'on tombe dans comment est-ce que l'émotion est dans Halo, c'est que la beauté de la chose, c'est que l'être humain est celui qui est plus robotique et l'intelligence artificielle est celle qui monte des émotions. C'est ça la magie de Halo.
Qu'est-ce qui s'est passé durant la conférence
de Microsoft, dans le fond, il y a eu le segment Gears of War parce qu'on a annoncé 3 jeux. Et okay. Ça a commencé par une petite animation de les petites figurines. D'ailleurs, il y en a une sur la table. Ouais. Comme si les figurines arrivaient comme devant le logo Gears of War.
Okay.
Et c'est tout. Ils n'ont pas montré du gameplay ou rien d'autre, mais essentiellement, ils annonçaient un jeu qui combinait les figurines avec un jeu mobile, dans le fond. Fait que très mercantiliste, oui. Mais ça est allé encore plus creux, selon moi, quand ils ont annoncé leur autre jeu, qui n'est pas Gears of War 5 ou Gears 5, qu'ils ont annoncé en troisième, mais c'est le deuxième, ou est-ce que c'est Gears Tactics, qui est honnêtement une copie carbone de XCOM.
Ce qui est parfait, je vais jouer à ça définitivement. Non, mais je veux dire, j'ai acheté Mario Rabbids parce que c'est XCOM avec Mario.
Ouais.
Les Rabbids, je m'en foutais un peu. Tu donnes du XCOM avec des gars avec des chainsaws.
Je vais jouer au jeu de pop. Je vais jouer au jeu des Funko Pop.
Mais voyez, je salue votre naïveté. Vous êtes les.
Non, du gars qui dit que c'est un peu louche de mélanger Transformers à des jouets.
Non, j'ai pas dit que c'est louche. Je dis juste que c'est malin et ça va faire du cash, même si tu fais pas nécessairement un produit de qualité. Parce que tu associes des choses que le monde aime, tout simplement. C'est très capitaliste, évidemment, et c'est comme ça que ça marche. Mais moi, je fais juste dire, c'est ça. Et un peu comme, par exemple, quand on a sorti un RTS de Halo avec Halo Wars, je veux dire, oui, le monde va faire, oh, moi, j'aime Halo, j'aime StarCraft, je vais jouer à Halo Wars. Mais on s'entend, là, c'est pas le jeu du siècle. Même, c'est pas mal mauvais, j'oserais dire.
Scandale.
moi, je m'attends exactement de ça avec Gears Tactics. Peut-être que ça va être meilleur qu'XCOM et qu'XCOM va dire, faut qu'on fasse mieux avec XCOM 3. Mais honnêtement, si tu veux juste un meilleur XCOM, il y a quelque chose qui s'appelle des mods et c'est fantastique. Et je suis pas mal sûr que Gears Tactics n'aura pas de mods. Et c'est ça. Peut-être que tu pourras acheter des figurines avec ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'était une surprise assez désagréable. J'avais un mauvais goût dans la bouche quand j'ai vu ça.
On sait jamais, tu pourrais être surpris. Par exemple, tu sais que maintenant, dans Final 15 sur PC, ils supportent officiellement les mods.
Ah! Oui, mais
il y a des studios qui le font de plus en plus
sur
PC.
Je pourrais être surpris, mais laisse-moi dire que mon détecteur de bullshit vraiment était à 100 quand j'ai vu ça.
Simon, c'est un puriste.
Pat, à combien était ton détecteur de bullshit quand tu as eu ta surprise de l'E3?
Ben d'abord, je vais commenter le jeu des Funko, soit dit en passant. J'ai failli... Tu sais, t'as une petite corde en arrière de l'œil, là. J'ai failli me l'arracher. Ouais, c'est ça. J'ai failli me l'arracher tellement que mon œil a retourné en voyant cette annonce.
Pourtant, en tant que développeur de jeux mobiles, je suis sûr que tu vois comment tu peux imprimer du billet vert.
Vous êtes de mauvaise foi.
Merci, Maxwell.
C'est eux qui sont de mauvaise foi et on va faire de la merde. Ils vont acheter des choses.
On
ne
sait même
pas
c'est quoi le jeu. On n'a rien vu. On sait juste que ça mélange pas.
Justement, pourquoi ils nous en parlent dans ce cas-là? Ils savent que juste en te montrant des figurines, le monde va l'acheter.
Wow, OK. Bon, je vais parler de ma surprise, Simon.
Toi, qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce que c'est joyeux?
C'est vraiment joyeux, en fait. Ça a même passé un petit peu en dessous du radar, mais quoi, peut-être le jeu est moins important que ce que je pensais. Ils ont annoncé Killer Queen Black pour la Switch. Je ne sais pas si tu connaissais Killer Queen.
C'est une excellente chanson de Queen.
D'abord. Mais sinon, c'est un jeu d'arcade qui avait sorti à peu près... 5 ans ou un petit peu moins de 5 ans qui avait fait le tour des festivals indépendants. On parle d'un jeu d'arcade où essentiellement tu as deux gros cabinets d'arcade par gros cabinet. Je sais pas si vous rappeliez là, le jeu X-Men de Konami, il y avait 4-5 personnes par cabinet. Eux autres ont fait un jeu qui se joue à 10 personnes via deux cabinets. C'était assez incroyable. Et on parle d'un jeu de stratégie en temps réel qui a aussi une certaine partie de plateforme et qui amène 10 joueurs à travailler ensemble. Donc, en fait, ensemble. 5 joueurs contre 5 joueurs, je suis en train de dire des conneries. Et j'ai trouvé ça très intéressant que ça... D'abord, ils ont annoncé une version Windows, mais aussi une version pour la Switch. Donc, je trouve ça très intéressant que le narratif qu'on avait déjà parlé à propos de la Switch comme étant une console qui ramènerait peut-être le multijoueur local très facile parce que tu peux l'amener partout, popper des manettes, jouer. Je trouve ça très intéressant de voir tranquillement pas vite des développeurs de jeux de style arcade très traditionnel se pencher sur ce système-là et peut-être ramener ces expériences-là de la vieille école.
Moi, je veux dire que ma surprise, c'est que ça aurait été ta surprise. moi, j'aurais plutôt parié sur le fait que Star Fox est dans le jeu de vaisseau spatial de Ubisoft ou c'est un truc très Nintendo, quoi.
Ouais, mais le jeu de vaisseau spatial depuis ça, je vais pas y jouer. Fait.
Mais Star Fox?
Ouais, mais je sais pas. Tu sais-tu comment d'Amiibo j'ai chez moi?
Hein?
Okay. Ouais.
Voilà.
Ben, et c'est ça. Je savais pas dire que c'est Nintendo Fox. Que j'embarque là-dedans systématiquement. Puis bon, je l'ai pas acheté le jeu d'Ubisoft là, avec Mario. Je suis pas naïf à ce point-là, Greg.
Surprise numéro 2 de la soirée.
Là, surprise à Greg.
Ça n'arrête plus, là.
Non, sérieusement, puis tant qu'à parler de la conférence de Nintendo, pour moi, il y a, bon, un exemple, le truc que, bon, Smash Brothers, on a un jeu avec tous les personnages, je trouve ça très louable, mais bon, encore une fois, OK, oui, félicitations, tu fais un best-of d'un jeu que tu as déjà fait. Next.
Moi, je salue le courage de Nintendo qui, souvent, ils n'osent pas aller voir les autres choses qu'ils ont fait auparavant et juste les ressortir.
Pardon? Combien de versions virtuelles de Super Mario Bros. Possèdes-tu actuellement?
C'était juste du sarcasme.
Ouais, j'espère.
Eh oui.
Il faut que tu dises aussi, en tout cas, on sait que le game director de Smash, ça fait un certain temps qu'il a l'air de vouloir faire autre chose. Là, il se retrouve encore à faire un autre Smash.
Ça commence à être le Hideo Kojima des jeux de combat. Là, mon dernier.
Je vais être honnête, je pense que le fait qu'il s'appelle Super Smash Brothers Ultimate n'est pas un hasard. Le fait qu'ils aient tous les personnages et Ridley, qui était le personnage le plus demandé par la communauté, n'est pas un hasard. Je pense qu'en ce moment, leur idée, c'est de dire c'est le dernier Smash qu'on fait peut-être pour les 10 prochaines années. On va le supporter avec des mises à jour, on va le supporter avec peut-être des DLC, mais on ne fera plus jamais un full Smash. Et ce brave game director va pouvoir peut-être faire autre chose.
Je souhaite.
Donc moi, je suis content de ce niveau-là. C'est le but de Nintendo de dire c'est le dernier qu'on fait. On n'a pas besoin d'en faire un autre. On va le supporter pendant plusieurs années.
Non, c'est ça. Bon, j'ai sonné peut-être un peu cynique. T'sais, je veux dire, c'est louable qu'il essaie de faire un très bon Smash Brothers. C'est juste que cette année, il y avait juste ça. Puis je trouve ça un petit peu limité.
T'as pas aimé le fait qu'il décortique les personnages presque un à un en donnant du détail? Moi, j'ai trouvé que...
Deux fois plus d'aucune.
Je vais être bien honnête. Si tu t'en fous de Smash, peut-être le problème, c'était de mettre ça dans le Nintendo Direct. Ils auraient dû peut-être faire ça à part pour que si t'es fan de Smash, tu vas voir ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'aller un peu dans le détail des mécaniques de chaque personnage.
Oui, non, ça. Puis je le reconnais en temps des années, je regardais ça, je trouvais ça super intéressant, les petites variantes qu'ils mettent dans chaque personnage. Tu te rends compte que dans le contexte du système de combat, ça change la donne. C'est très cool. Mais Smash Brothers, j'aime ça, mais je me suis jamais vraiment penché sur ce jeu-là, donc je m'en cogne. Puis là, tu dis, OK, la moitié de ta conférence, c'est à propos d'un jeu que potentiellement du monde vont se cogner. Mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'ils mettent d'autre? T'sais, d'après moi, il n'y avait rien d'autre. J'aurais peut-être passé plus de temps sur le Pokémon qui s'en vient sur la Switch. C'est quand même une grosse franchise. J'aurais peut-être plus balancé ça. Mais
ils ont déjà fait Nintendo Direct dédié à ça.
Ouais, tu sais... Ça revient un peu au point que vous aviez sorti tantôt de dire des fois, oui, c'est bien d'annoncer les trucs avant les trucs, mais peut-être il aurait dû ramener un petit peu plus de Pokémon pour avoir quelque chose de plus équilibré, parce que j'imagine quelqu'un qui en avait vraiment rien à foutre de Smash, c'est quoi, 25 minutes dans le processus, tu vas arrêter de regarder la conférence?
Comme oui, moi, puis j'ai trouvé le temps long.
Oui, non, c'est ça. Puis pour une conférence d'une heure, c'est un peu terrible.
C'est toujours moins pire que celle de Square Enix, où moi je suivais un live update, et le monde, parce qu'au début, il y avait un annonce qui disait « Attendez bien jusqu'à la fin. » Et donc là, ils finissent leur truc, puis ils sont restés en disant « OK, il y a peut-être une surprise finale à une annonce de jeu. » Puis il n'y avait rien.
C'était juste « Restez, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. »
Ouais, ça. Là, je veux dire, littéralement, tu voyais, le gars, il fait comme eh, « Tu sais, si on attend, il y a peut-être quelque chose d'autre. Il y a peut-être un rappel. » Puis là, après genre 10 minutes,
les lumières se rallument.
La conférence était finie. T'es comme, bon, OK, là, c'est triste.
C'est là que tu reconnais la compagnie japonaise très polie. Non, non, s'il te plaît, reste encore.
Restez!
C'est bon, ça.
Vous allez manquer de Quiet Man.
Et là, là, oh là là. Bon, là, messieurs, on a parlé des jeux qui nous font triper. On a parlé des belles surprises. Maintenant, il faut être négatif. Ça va être quand même diffusé sur Internet et on fait partie de la communauté des fans de jeux. Il faut être négatif, des fois.
Je l'ai déjà été, alors qu'est-ce que je fais?
Tu peux l'être encore plus.
Excellent.
Creuse dans la noirceur dans ton cœur.
Mon Dieu, je vais devenir un Sith d'ici la fin de l'épisode.
Je sais pas. Qu'est-ce que ça implique, hein, être un Sith en 2018? Tu vas avoir encore des cornes sur la tête?
On n'embarque pas Star Wars là-dedans, là, parce qu'on va pas finir l'épisode.
Très bien. On va parler de négativité. Donc, le dernier segment, j'appellerais ça, là, pour l'amour du ciel, arrêter. Trois petits points.
Ouais, c'est bon ça, j'aime ça.
Ouais. Veux-tu commencer, Simon?
Ben oui. Arrêter Death Stranding.
Oh!
Je vais être honnête, ça faisait partie de mes choix potentiels de dire, OK, ben peut-être que oui. Kojima, on devrait lui dire de se calmer.
Mais oui, c'est bon, Metal Gear. Ben oui, il est cute, Kojima. Mais là, on s'entend. Là, c'est pas comme la seconde venue de Jésus-Christ ou la troisième, je sais plus, on est rendu à laquelle.
Dans quel testament on est rendu?
Ouais, c'est ça. Mais non, mais je veux dire, il y a des limites au génie humain. Là, je veux dire, il n'est pas si incroyable que ça. Puis honnêtement, oui, il y a un beau trailer qui avait aucun sens v'là 2 ans. V'là 1 an, un autre trailer qui a plus ou moins du sens. Des beaux acteurs connus qu'on connaît, OK. Mais là, on arrive avec un autre trailer qu'on est juste comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis on nous montre du gameplay ou est-ce qu'on est juste, mais...
Juste pour décortiquer un peu plus, Simon, oui. Toi, qu'est-ce qui t'agace? Est-ce que c'est l'énervement de certaines personnes par rapport à ce jeu-là? Dire, oh my God, ça va être grandiose!
Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire le fameux hype qu'on aime dire. Il y a un hype incroyable, et moi aussi j'en avais beaucoup, mais il y a une limite à avoir du hype. Il y a une limite à tout le temps vouloir mousser ça. Et là, en plus, on arrive à ce qu'on nous montre de ce qui serait du gameplay, parce qu'on s'entend clairement que le jeu, y aura pas, on va pas jouer de même. On voulait juste montrer les environnements et tout ça.
Ah, moi, je pense que tu te promènes à livrer des paquets.
Mais c'est...
C'est ça, le jeu. Je pense qu'il troll. C'est un troll à 100 millions de dollars.
Mais
tu
c'était
vois.
D'une...
Tu t'arraches l'ongle.
Mais souviens-toi, dans Metal Gear Solid 3, tu pouvais enlever des balles. Ouais. Je pense qu'il a repris cette mécanique-là. C'est-à-dire qu'éventuellement, tu marches moins vite parce que t'as des ampoules, t'as mal aux pieds. Là, faut que tu soignes tes pieds pour te remettre à marcher.
Mais c'était d'une platitude incroyable. C'était beau, mais pas si beau que ça. Je veux dire, on se retrouve maintenant avec des Last of Us ou Ghost of Tsushima, justement, parce que c'est encore plus beau. Tout ce qui est comme typique d'un jeu de Kojima, la beauté, à quel point que le comment se cacher, tout ce qui est sneak comme système et tout ça, c'est innovateur, mais il n'y avait rien de ce qui rendait Kojima si génial dans ses jeux. Alors moi, je pense qu'on continue à dire « Ah oui, c'est génial », mais arrêtons de juger par le pedigree du créateur, puis regardons vraiment, là, si c'était pas Kojima derrière ça, ou si c'était pas Norman Reedus que son look Walking Dead, là, si c'était pas ça, le monde ferait juste « Mais qu'est-ce que c'est cette
merde-là? » Oui, non, je suis totalement d'accord. Ceci étant dit, puis j'aborde un peu dans la même direction que Greg, de l'apprécier presque comme étant un troll, il y a un côté très, quasiment, prestation postmoderne, de dire « OK, je viens de me faire donner un chèque en blanc de Sony, regardez à quel point je vais faire... » Il y a quelque chose de captivant là-dedans.
C'est un artiste mégalomane incroyable qui se fait donner du budget illimité, alors c'est sûr que lui, il tombe, ça va dans tous les sens... Mais c'est un peu comme le David Cage du Japon. Là. Il promet des choses incroyables, des émotions.
Kojima a déjà
ça.
Fait des bons jeux. Je t'en prie,
continue. Oh, snap!
Mais non, mais sérieusement, on se calme avec Death Stranding, alors s'il vous plaît qu'on arrête ça.
Mais voilà la chose. Moi, bon, si le jeu est bon, tant mieux. Je dois avouer qu'il y a une partie de moi qui aimerait que le jeu soit vraiment un échec total. Pas nécessairement parce que je veux voir que Kojima failé ou autre. Plus parce que j'aimerais ça après lire un livre qui explique le développement du jeu. Tu sais, avoir les gars de Sony, tu sais, ils montrent la démo joie puis ils font comme... Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais tu sais, ils osent pas le dire parce que... Non, mais tu comprends pas que Kojima, c'est un génie. Si t'aimes pas ça, marcher pendant 20 heures à travers un niveau complètement épuré de décor... C'est parce que tu comprends pas le génie.
J'adorerais ça que ça atteint un niveau de troll artistique à ce point-là, parce que ça serait en effet une leçon incroyable de marketing, de design et de tout. Ça serait incroyable.
Donc moi, je me dis, il y aurait une histoire merveilleuse, qui est peut-être merveilleuse si c'est un succès aussi, mais si c'est le Titanic du jeu vidéo, quelle belle histoire qu'on va pouvoir éventuellement découvrir.
J'ai une espèce de fascination malsaine pour ce jeu-là actuellement. Mes fascinations malsaines, je le reconnais. Puis c'est assez incroyable parce que, bon, je parlais des jeux du E-Trick, ma copine. Je commençais à essayer de décrire ça, tu sais, je l'avais intériorisé, ce jeu-là. Tu sais, quand ça ressort, tu commences à l'expliquer, tu fais « Ouais, ben, ils annonçaient que Léa Seydoux était dedans, puis y a des fœtus dans la gorge du God Walking Dead. »
Et qu'est-ce qu'on te montre en premier au début du trailer?
Les fesses du bébé.
On te montre un cul. Mais c'est pas ça. Alors, moi, je dis qu'il y a un message troll.
Non, mais moi, je sais pas ce que je dis. Je pense qu'il troll. Après ça, est-ce qu'il troll pour livrer quelque chose de surprenant? Ou est-ce qu'il troll juste parce qu'il peut troller et il s'en fout?
Ou le jeu est un troll au complet. Là.
Peut-être. Et en fait, il n'y a pas de jeu. Il n'y a jamais eu de Death Stranding, Pat.
Putain.
Death Stranding est en nous depuis
Death Stranding est
là.
En nous depuis toujours.
Je vois tellement après ça, genre 10 ans plus tard, un film à la Deserter Artist à propos de ce jeu-là, ça serait incroyable.
Ça serait génial.
Oh là là.
C'est le This is Spinal Tap de...
Oh mon Dieu, ça serait tellement bon. Qui vous metteriez dans le rôle d'Hideo Kojima?
Oh.
Soyez de mauvais goût et mettez un acteur occidental, s'il vous plaît.
En plus, on va whitewasher
Michael Fassbender, encore une fois, non?
Steve Carell.
Benedict Cumberbatch, tiens. Voilà.
Ah, oh.
Ça serait intéressant, même. J'ai pas ça.
Parce que, tu sais, faire le génie avec un ego démesuré, Benedict Cumberbatch est très bon là-dedans.
Ouais. Moi, je dirais Chris Rock.
Chris Rock is Hideo Kojima.
Hein? Hein?
Greg,
oui.
Il y a des choses qui t'agacent dans la vie. Et face à elle, t'as envie de dire non, mais pour l'amour du ciel, arrêtez.
Mais en dehors de ça, quel jeu qu'il faudrait arrêter?
Non, jeu, tendance.
Et là, je vais peut-être aller dans la controverse. Oh. Je pense que le format de l'E3 tel qu'il est en ce moment. Devrait arrêter.
OK, arrêtez le 3.
Dans le sens que, bon, comme on sait peut-être, ils ont maintenant un site ouvert au public, ils ont 15 000 billets qui sont vendus, mais ça reste encore un événement où il y a des racontes business, il y a des journalistes qui vont là. De ce que j'ai pu comprendre, c'est un bordel total. C'est de pire en pire en termes d'expérience, juste d'aller à l'E3 puis d'être capable, si tu es un professionnel, de faire ton métier. Bien évidemment, c'est encore un lieu de rencontre très utile pour les développeurs. Comme on a dit, c'est très pratique aussi pour présenter tes jeux, etc. Mais je pense qu'en ce moment, il faut faire un choix, c'est que soit l'E3 devient maintenant un événement pour le grand public, avec, comme c'est le cas dans d'autres événements, bah oui, tu peux quand même avoir des salles de rencontre, des salles de conférences pour rencontrer des journalistes, pour faire des deals de business, etc. Mais ça devient maintenant un événement grand public, ou que ça redevienne un événement qui est purement professionnel. Je pense qu'en ce moment, le fait que ça soit un hybride entre les deux ne sert pas l'expérience sur le floor. Donc là, je ne parle pas des conférences, mais je parle vraiment de l'événement en tant que tel, de ce que j'ai pu lire un peu partout. C'était déjà vraiment pénible l'année dernière. C'est encore plus pénible cette année. S'ils décident de vendre encore plus de billets l'année prochaine, ça va être de pire en pire. Je pense qu'en ce moment, en fait, le 3 se cherche un peu et il faudrait qu'il fasse une décision. C'est que soit le 3... ça s'appelle plus le 3 ou ça devient un événement public, soit on met ça dans un contexte plus professionnel avec moins de monde.
Est-ce que le SA avait explicité pourquoi ils avaient décidé de faire rentrer le public là-dedans? Parce que même avant les gens de l'extérieur puissent entrer, moi j'avais déjà entendu dire le 3, c'était déjà très pénible. Tu sais, avec les managers de GameStop et tout ce monde-là. Là?
De ma compréhension, parce que bon, le niveau de monde qui allait à le 3 ont un peu fluctué, le raisonnement c'était « Ah ben oui, c'est vraiment important ». De plus en plus d'avoir un contact entre les joueurs et les créateurs. Donc, quelle belle opportunité pour les joueurs de, par exemple, de faire la file et de jouer au nouveau Smash, de jouer au nouveau Zelda, d'aller eux aussi essayer les jeux, de pouvoir rencontrer dans certains cas les développeurs. Mais de ce que j'ai cru comprendre, tout ce qui est ouvert au public, des fois, tu fais la file pendant 6 heures pour jouer à un jeu pendant 5 minutes. Quoi. Ouais. Je veux dire, en termes d'expérience, c'est vraiment horrible. Et on parle pas, je pense que le PAX fait beaucoup mieux ça. Et ça donne l'opportunité aux gens d'encontrer les joueurs, mais c'est dédié à ça. L'idée principale, c'est de rencontrer la communauté des joueurs. C'est pas de faire un mélange un peu étrange entre je fais du business, je rencontre un paquet de journalistes, mais aussi il faut que je regarde les joueurs. Je pense qu'en ce moment, il y a vraiment un problème d'identité avec c'est quoi le but de l'E3 aujourd'hui en 2018. Et je pense que ça devrait arrêter. On devrait leur repenser l'événement puis déterminer ce que ça devrait être.
Et là, c'est quand même assez drôle parce qu'on se le rappellera, il y a à peu près 10 ans, il y avait eu une grosse refonte du E3. Il y avait eu des grosses reconsidérations. Là, je trouve ça intéressant que 5 à 10 ans plus tard, on est retombé dans le même problème.
Il y a 10 ans, pendant la crise, entre autres, de 2008, où ouais. Ben, là, effectivement, tout le monde a un peu mangé en pleine tronche. Là, je veux dire, bon, l'économie roule quand même à plein régime un peu partout. Donc, c'est moins un problème de ce point de vue-là. Les consoles se vendent très, très bien, les jeux aussi. Donc, je pense que là, c'est moins un problème. Je pense que c'est tout à fait honorable d'essayer de donner plus de place aux joueurs. Mais encore une fois, j'ai l'impression... moi, ça fait des années que je ne suis pas allé à l'E3. Mais je dois avouer qu'y aller, ça me ferait un peu peur parce que je pense que ça serait 3 jours particulièrement pénibles comme expérience.
Sinon, Maxwell, si tu serais une espèce de brigadier, tu aurais à sortir ta pancarte Arrestop, tu la sortirais devant quoi?
Pour nous présenter les jeux lors des conférences, peut-on s'il vous plaît cesser de sélectionner des gens qui sont mal à l'aise devant un public? Mm-hmm. Parce que ça fait des silences profondément malaisants. Ça fait des espèces de moments où est-ce qu'on demande des applaudissements alors il n'y a pas raison d'être.
C'est quasiment qu'ils lèvent les bras en faisant
ouais,
signe.
S'il vous plaît, OK. Et ça, chaque année, il y en a. Et je comprends que c'est les gens qui veulent parler de leur bébé, de leur création. Mais c'est quand même une conférence. C'est des gens qui sont visiblement, pas tous, là, mais il y a plusieurs développeurs qui sont visiblement nerveux devant une foule. Et je pense que ça rend service à personne. Il y a suffisamment... en fait, j'étais content. EA a commencé avec Andrea Rennie, qui je pensais à l'animer tout le long. Ce fut pas le cas. Il a fait comme 2 petites interventions et c'est tout. Il y a des gens qui sont à l'aise. Il y a des gens qui le font bien, qui peuvent faire lever une foule. Je pense que Todd Howard pourrait présenter. Il l'a fait. Il présente pas tout le temps des projets super le fun. Il nous a présenté un jeu mobile, Fallout Shelter. Tout le monde était super excité. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup de charisme. Et il y a des gens qui en ont un petit peu moins. Et je pense qu'il faut qu'on accepte ça et de les laisser peut-être à l'arrière-plan. Pas par méchanceté, mais simplement parce que ça rend pas service à la présentation.
C'est quoi? Ces gens-là font déjà d'excellents bons jeux.
Exactement. Donc, on peut les présenter dans des vidéos, tout ça. Parce que c'est pour eux aussi. Il y en avait un, là, je pense, dans Bethesda. Là, tu voyais suer. Là, c'était pas au petit. Là, j'avais le goût de le prendre dans
il
mes bras.
Il fait chaud aussi souvent sur un stage
sur
les projecteurs.
Sûr, mais tu vois le mal-être.
je sais qu'il y a une conférence, qu'il y en a une qui a été particulièrement critiquée. Je me souviens plus c'est laquelle. Si c'était Electronic Arts ou Microsoft ou... Mais ce que les gens se plaignaient justement des silences.
Je pense que c'était Bethesda.
En tout cas, il y en a une où il y a une personne qui était backstage et qui expliquait qu'en fait, le micro reçoit très peu en fait, la réaction de la foule. Et dans certains cas, en fait, la foule réagissait. Donc, toi, tu n'entends pas la foule. Mais le gars qui est sur stage, lui, attend que la foule arrête de parler pour continuer à parler. Et donc, dans certains cas, en fait, l'impression de silence... était parce que, tu sais quoi, on n'est pas en train de prendre le son de la salle, on est juste en train de prendre le son du gars qui parle. Ouais. Et parfois, ça crée une fausse impression. Peut-être pas tout le temps.
Mais je comprends.
Je pense qu'il y a un peu ce côté-là aussi qu'il y a peut-être une réflexion intéressante de dire, foutez un micro dans la foule.
Parce qu'ils s'en sont pas à leur premier rodéo. Hein, donc, un moment donné, il faudrait peut-être commencer à rendre ça un petit peu plus, pardonnez l'anglicisme, mais tight.
Oui, il est professionnel pour l'instant.
Professionnel, voilà.
Et je vais y aller avec mon arrêté, qui est quand même assez lié au tien. Moi, c'est arrêter de faire des émissions de variété avec les présentations de l'E3.
est-ce que tu parles, parce que Ubisoft, je veux dire, si Ubisoft ne commence pas avec un numéro de danse, ce n'est pas une conférence Ubisoft.
Ubisoft s'est rendu dans la tradition, fait que j'imagine que ça passe, là. Puis bon, t'as ton apparition annuelle de Miyamoto maintenant.
Ce que j'aime, c'est que littéralement, on fait « Hey, Miyamoto, tiens, on donne un cadeau. Bye, Miyamoto. » C'est comme super, comme... Tu veux juste montrer que tu donnes un cadeau à Miyamoto, quoi. Je veux dire, rendu là, c'est du
name dropping.
Non, mais c'est du fan service à fond, quoi. C'est fou.
Ouais, mais en même temps, qui voudrait pas faire ça, Greg?
Moi, si Miyamoto viendrait, je lui donnerais peut-être pas un cadeau. Je m'aurais peut-être me signer un jeu, par contre.
Tu lui donnerais pas de cadeau? Avec tout ce qu'il y en a dans ta vie, Greg?
Un verre d'eau, peut-être. Être hospitalier.
Ouais, OK, en tout cas, on s'en reparlera tantôt. Je suis un peu désappointé, je vais t'avouer.
Mais continue, les émissions de variété.
Ouais. Banjo, c'était long, là, s'il vous plaît. Là. Le banjo au début...
Mais toute cette séquence là, avec l'église, le changement de plan...
Ah, puis le gars, même au début, là, on va vous amener dans notre univers. Ta gueule, je veux voir des bandes-annonces. Puis je m'excuse, là, les gens qui étaient là, les gens qui regardaient, on s'entend que tout le monde s'en cogne là, du show de variété, tout ce qu'ils veulent voir, c'est des bandes annonces de jeux. Si seulement le twist a passé à CNN ou je sais pas, sur n'importe quel autre média lié au domaine de la finance, ça, ok, tu vas avoir l'air big, ainsi de suite. Mais là, tu sais que c'est des gamers qui vont regarder ta conférence à 98% sur Internet. Les gens qui sont là, il n'y avait pas des tronches d'investisseurs, c'était des gamers. Donc, s'il vous plaît, donnez-leur ce qu'ils veulent puis qu'on finisse. Là.
Moi, ce que je me demandais, c'est, je m'essayais de m'imaginer le gars qui a fait la file pour la conférence Sony, oui. pour être en avant. Hey, il est content d'être en avant, parce que, bon, bah, écoutez, on va aller à un autre endroit. Puis là,
il est pas à sa place,
il est plus en avant, il est en arrière. C'est comme, je sais pas comment c'était organisé, mais d'après moi, ça devait être particulièrement frustrant d'être là-bas.
Et cette conférence-là, c'est un fiasco-là, parce que pendant la tradition, après ça, ils te mettent devant deux gars qui sont devant une toile qui est clairement sur le bord de partir au vent. Là. Deux influenceurs travaillaient chez IGN avant, mais là, maintenant, ils travaillent chez Sony, qui ont rien à dire, qui ont des opinions cannées. Sérieusement, des conférences demain, je suis plus capable.
Ouais, ces fausses opinions-là, là. Qu'est-ce que toi, t'as trouvé excitant? Par Sony qui paye nos chèques.
C'est ça, j'allais dire. Sony me paye 1000$ par semaine pour payer mon appartement dispendieux à San Francisco.
C'est très excitant, voilà.
Ouais, et voilà, tu sais. Oh, ça, tu sais. Encore une fois, là, pensez-vous que les gens qui regardent ça, en tout cas,
c'est
j'espère.
De la fausse authenticité. Yeah.
En fait, voilà ma question, parce que cette année, je pense plus que d'autres années, il y a eu très peu de démos live sur le stage.
Ouais.
Je pense pour des raisons, entre autres, d'efficacité, ils ont décidé de faire trailer gameplay, les uns après les autres. Ma question est-ce que finalement, on serait pas mieux de tomber dans un format Nintendo, dans le sens que, yo, on a des jeux, trailer, on te remplit ça pendant 45 minutes, une heure, puis c'est fini, là. Est-ce que être sur stage apporte quelque chose en 2018?
Je serais biaisé sa question de Nintendo, donc mon opinion n'a pas vraiment de valeur. Mais oui, j'aimerais que le format aille vers ça parce que ça donne ce que les gens veulent. Après ça, je ne sais pas, on peut faire un tour de table. Voyez-vous un argument pour les numéros de Tam Tam puis les mises en scène dramatiques de « Ah, ça va être au Japon, fait qu'il y a un gars qui va frencher une flûte pendant 20 minutes. »
Non, mais non, pour toute cette dimension-là, vous avez absolument raison. Par contre, rappelez-vous de la conférence de la sortie du PS4 quand justement il y avait eu cette espèce de coup de poing au vent de Microsoft de la part de Sony, quand il avait dit nous autres, il n'y aura pas de online tout le temps et que la foule s'était exclamée. Ce moment-là, tu ne peux pas le reproduire.
Mais ça,
sur
c'est
une
du
vidéo.
Positionnement de produit. Le gars qui ferait une chaflute devant tout le monde pendant 20 minutes.
Non, mais la question c'était est-ce que vous voulez que je change de format?
Oui,
pour
oui.
Moi, je pense qu'il y a des moments, on l'a vu un petit peu quand Resident Evil a été annoncé, les gens qui applaudissent, oui, ça crée un hype. Rappelez-vous le E3 of Dreams quand il y avait eu Shenmue, Last Guardian et Final Fantasy VII. Ces moments-là, tu ne peux pas les reproduire.
Mais ça, c'est pour les gamers, je comprends pourquoi les gamers vont aimer ça.
Ma question, c'est tu les mets dans un théâtre, devant un écran, et tu leur mets les vidéos, tu enregistres la réaction de la foule, est-ce que tu n'as pas le même résultat?
Oui, ça, je pense que
c'est ça. Enlève ce qu'il y a sur stage, est-ce que c'est vraiment
nécessaire? Mais
Microsoft,
c'était un peu ça cette année. Il n'y a pas eu beaucoup d'interventions sur scène, il y en a eu quelques-unes, mais pas beaucoup.
Je sais pourquoi les compagnies font ça, est-ce qu'ils ont des gros budgets, fait que, on va mettre des musiciens.
Je vais être honnête, on a quand même échappé belle. Parce que dans la mesure où ils ont décidé d'introduire avec une petite séquence variété, chacun de leurs gros jeux. Imagine si on avait dû subir ça pour Death Stranding. On aurait eu un gars qui se promenait de rangée en rangée en donnant des paquets, qui serait arrêté pour se couper les ongles de pied. Ça aurait été une genre de performance art complètement bizarre. On a évité ça.
À la limite, j'aurais aimé ça.
Non, mais
avec
c'est
des faux fœtus qui se promènent.
Ouais, ça, c'est tellement... D'ailleurs, tu dis, OK, où est-ce que je vais voir ça? Nulle part. Mais là, le gars qui joue du banjo, je m'excuse. Je vais aller voir jouer du banjo. Je vais sûrement aller traîner dans le vieux Montréal.
Non, mais moi, ce que j'ai aimé, en plus, ils l'ont annoncé, tu sais, avec son nom. En disant, ah, ça va être un gars connu. Puis je suis comme, il y a un banjo. Je suis comme, bon, c'est pas un développeur. C'est officiel. C'était apparemment, je suis sûr, c'est un joueur de banjo très connu.
Oui, non, puis il jouait bien, c'était cool.
C'était pas le compositeur?
C'est le compositeur.
C'est très possible. Honnêtement, j'ai pas été vérifier son nom sur Internet.
Je vais t'étonner, je m'en cogne. Mais il y a quelque chose, encore une fois, je sais pas, c'est peut-être moi qui est très cynique, qui fait une lecture tordue de ça, mais ça fait encore très... on fait des jeux vidéo violents avec des histoires de base, mais on est deep, on est profond, on est culturé. Voici un gars qui joue du banjo de manière délectable. Je suis tanné de ça. Là. Assumez que vous êtes l'industrie du jeu vidéo, divertissez les gens, puis arrêtez d'avoir l'air plus fancy qu'est-ce que vous êtes.
On peut faire mieux que des pains et des jeux, Pat, quand même. On n'est pas juste là pour divertir les gens. On peut les faire réfléchir sur la condition humaine.
Oui, non, je sais. Mettre ça dans le contexte d'une présentation.
On va y aller avec la conclusion. T'as fait allusion que tu travaillais sur un autre projet de podcast de temps en temps. Pourrais-tu en parler, Simon?
Mais c'est pas un podcast, c'est une émission radio, carrément. Est-ce
que c'est vrai, c'est rendu une émission radio.
Parce que tu parles du projet avec CIBL.
Parle-moi de tous tes projets, Simon.
OK, ben pour commencer, on va y aller simple. Vous avez juste à chercher, aller sur le site web multijoueur.ca et vous allez trouver des nouvelles, justement, sur tous les jeux qu'on a parlé, des choses comme ça. Mais sinon aussi, il y a le podcast. Qui est là-dessus, le multicast. Mais sinon, ça s'en vient bientôt dans la radio montréalaise, à CIBL, la radio communautaire de Montréal. Le multicast, environ la moitié de l'équipe d'une émission de jeux vidéo qui est à venir à CIBL, ça sera le multicast qui va participer, avec également certains noms ça va être plus des surprises pour l'instant parce que c'est rien d'officiel, mais des personnalités radiophoniques et...
André Arthur va parler de jeux vidéo.
Rien de trash, rien de personne de raciste, des gens intelligents et agréables qui s'y connaissent dans le jeu vidéo, qui sont fascinés. Des acteurs, des littéraires, des personnalités, des journalistes. Et on va parler de jeux vidéo. Ça va être très, très cool et ça s'en vient. Le nom, pour l'instant, serait JV, tout simplement.
JV.
Ouais, comme
comme jeu vidéo?
Oui, non, JV.
Non, c'est je vais à la plage. Ah! J'y vais. C'est, ouais, c'est ça.
J'y vais.
Ouais.
J'y vais.
Non. Mais c'est ça. Fait que à venir, à surveiller.
Ça,
mais
pour ça.
Mais oui. Ça,
on apprend des choses.
On travaille là-dessus, ça s'en vient, mais c'est rien de... Je ne peux pas encore donner de date.
Pas trop, mais dès que ça se pointe, on va annoncer ça sur nos médias sociaux. Ça va me faire plaisir.
Ça me fera un plaisir de te recevoir comme invité, d'ailleurs, de vous recevoir, messieurs.
Fantastique. Je pourrais parler de banjo dans les conférences
du
E3. Tu
pourrais parler de ce que tu veux.
Oh, Maxwell, tu pourrais-tu venir? On va parler de lutte, je crois.
Yes!
Non, n'importe quand.
Donc, merci à toi, Simon. Bon, ben Greg, si ça te tente, on va faire la procédure de fin. Es-tu confortable avec ça?
Oui.
Donc, dans l'éventualité que c'est votre premier contact avec Poutine à 2, bien évidemment, vous pouvez vous abonner soit sur Apple Podcast, soit en allant sur le site de Radio Kawa et en trouvant le fil RSS. Donc, de cette manière-là, vous pourrez aussi vous abonner sur d'autres plateformes, tel Android, les PC. Il y en a moins d'autres plateformes, Greg?
iOS.
iOS, c'est vrai, oui. C'est vrai. Puis si tu ne passes pas par le service d'Apple, tu peux utiliser des fils RSS.
Effectivement.
Est-ce que ça serait possible sur un Dreamcast de faire ça? Parce qu'on se rappellera, il y avait un...
je pense que vu que ça utilise un modem téléphonique, bonne chance.
OK, mais peut-être on va essayer. Regarde, ça pourrait être un beau projet le week-end.
Si t'aimes le 56K, pourquoi pas?
Absolument. Quelle belle philosophie. Donc, on va continuer. Bon, disons que vous êtes déjà une ou un habitué de Poutine à 2, vous aimez vraiment l'émission et vous voudriez nous donner un coup de main. Il y a deux manières très simples. D'abord, vous pouvez laisser des notes, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Et sinon, l'autre manière est passablement simple. C'est tout simplement de passer le mot à propos de Poutine à 2. Ça arrive que vous avez de la famille, des amis, des animaux de compagnie qui aiment potentiellement les jeux vidéo ou la poutine. Ben, parler de Poutine à 2, ça risque de nous rendre un grand service.
Je connais même des membres de ma famille qui mettent le podcast pour s'endormir. Ça peut être un truc si vous êtes insomniaque.
Es-tu sérieux?
Oui, je suis très sérieux.
C'est pas une blague.
Non, mais c'est une pratique commune. Beaucoup de monde font ça. Ouais.
Personnellement, je ne sais pas comment le prendre.
Endormez-vous tendrement.
C'est-à-dire que tu as une voix suave qui nous apaisante, qui nous intéresse et éventuellement, tu nous emmènes dans le monde des rêves.
Tu sais vraiment parler aux gens, Simon. Sinon, on va y aller avec des remerciements. Un gros merci à toi, Greg.
Ben, merci à toi, Pat.
C'était fantastique encore une fois.
Comme toujours.
Wow. Maxwell, ça faisait longtemps?
Ben oui, merci de l'invitation, merci pour la poutine.
Ben ça fait vraiment plaisir.
Délicieuse.
Sais-tu qu'est-ce qui était délicieux? Tes interventions.
Oh,
en fait, j'aimerais dire délicieuse.
Oh.
Ma conjugaison commence à être...
N'importe quand. N'importe quand.
Sinon, un gros merci à toi, Simon.
Ça fait plaisir de participer à ce malaise.
Sinon, bien évidemment, j'aimerais remercier deux autres gars, c'est-à-dire Bench Pesque pour l'identité musicale de cet épisode, ainsi que Julien Bro pour l'identité visuelle. Et sinon, très étonnamment, il y a un autre épisode de Poutine à 2 qui s'en vient. Greg, te sens-tu d'attaque parce que le prochain, ça va être pour toi?
Oui, effectivement. On va avoir l'occasion de parler avec Sabotage qui développe le jeu The Messenger, qui était à l'E3. Je pense qu'on aura l'occasion un peu de leur demander aussi leur expérience là-bas. Il y a certains trucs que les gens ne savent pas nécessairement en termes de rencontres médiatiques à l'E3. Il y a notamment ce qu'on appelle les Judge Day, où on a l'opportunité d'avoir des journalistes qui jouent à nos démos jouables et qui nous remettent des prix. Et c'est souvent comme ça qu'on détermine, entre autres, Best of E3, Best sur telle console, etc. Donc, je suis sûr qu'on va pouvoir apprendre plein de choses sur leur jeu, mais aussi un peu sur l'expérience E3 pour un développeur indépendant.
Et toujours au domaine des histoires, c'est très intéressant. J'avais lu dans leurs médias sociaux d'ailleurs qui ont été au Japon présenter le jeu. Il paraît qu'il y a un des créateurs de Ninja Gaiden qui avait vraiment apprécié leur boulot. Donc, je pense que ça risque d'être très intéressant comme épisode.
Et j'ai hâte moi-même d'en apprendre plus.
Très bien. Bon, à titre de note, cet épisode va sortir à la fin du mois de juin, c'est-à-dire le mercredi 27 juin 2018. Donc, programmez vos calendriers et vous allez avoir un excellent épisode. Sur ce, je crois qu'on va terminer. On va vous laisser avec de délectables bandes-annonces d'émissions de Radio Kawa. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir.
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro d'étolier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'étolier, une émission Radio Kawa. With the devil in the shotgun place, living it down to saw your face.
Mais faut quand même faire un peu gaffe aux fautes d'orthographe.
Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.